Bonsoir, bonne et heureuse année 2011. Voilà, nous sommes le lundi 3 janvier 2011. J'aime beaucoup ce chiffre 2011, il me rend joyeux, je ne pourrais pas dire pourquoi. Mais je suis content de même prononcer ce chiffre 2011. Je vais vous inviter à partager un moment de pleine conscience partagée, c'est-à-dire juste écouter le son, sans rien faire d'autre, jusqu'à son extinction totale. Et on fait ça tous ensemble, y compris avec les chers frères et sœurs qui écoutent cet enregistrement maintenant avec nous. Avant d'introduire ce groupe et cette année qui démarre, je vais laisser le soin d'introduire cette année à quelqu'un, un groupe d'enfants, si ça marche, qui ont choisi de chanter ensemble dans l'innocence une belle chanson. Donc, on peut voir les images, ceux qui sont là. Et il parle des rêves d'enfants, hein, il parle de que le soleil derrière les nuages, lorsque les nuages s'évaporent, le soleil puisse briller plus fort encore. Ça me parle beaucoup de notre condition de séparation apparente, hein, avec ces nuages qui s'évaporent. pour que le rêve devienne heureux, hein, que le rêve que nous pensons vivre devienne un rêve heureux. Ça a beaucoup touché, hein, cette chanson. Ceux qui veulent voir les images, toi qui écoutes cet enregistrement, c'est sur le site êtreplus.fr en 8 lettres et c'est dans les petites annonces. Et ça s'appelle Bonne et heureuse année. Merci à Sylvie qui a transmis cette vidéo sur le site. Voilà, j'avais à cœur de commencer cette année avec ces souhaits de bonheur par ces enfants que je sens comme les bâtisseurs du nouveau monde, ceux à qui le monde et la bonne volonté de le transformer en paradis sur terre est donnée, hein. Ceux qui apparemment viennent avec un petit peu moins de valises sur terre, ceux qui ont l'innocence et la création au bout des doigts et au bout des bisous. Voilà, donc ce soir, c'est un groupe de partage autour des enseignements de l'unité. Ceux qui nous disent qu'il n'y a que Dieu ou la source ou tout ce qui est et il n'y a rien d'autre, sous la forme de deux mots qui disent Dieu est. Dieu est tout ce qui est. La source de toute chose est tout ce qui est et nous faisons partie de cette source comme des rayons de soleil, font partie du soleil. Alors j'ai cité une phrase dans le petit mail de présentation de l'année dernière, hein, qui parle des leçons, des épreuves, et c'est dans le chapitre 31 de Un cours en miracle, sous chapitre 8, paragraphe 3. Ce chapitre 31 contient des tas de merveilles, hein, vraiment magnifiques. C'est le meilleur pour la fin pratiquement. Les épreuves ne sont que des leçons que tu as manqué d'apprendre et qui te sont présentées à nouveau, de sorte que là où tu avais fait le mauvais choix auparavant, tu peux maintenant en faire un meilleur, échappant ainsi de toute la douleur que t'avait apporté ce que tu as choisi auparavant. Voilà, ça me fait du bien de lire ça, ça me fait du bien de considérer que rien de ce que je vis en tant qu'expérience n'est négatif, que j'ai besoin d'apprendre que tout est neutre, j'ai besoin de me souvenir de qui je suis et que lorsque ce souvenir revient, j'ai plus besoin d'aller en salle de classe. La leçon est apprise et toute la douleur que cette expérience m'avait apportée disparaît comme le nuage s'évapore au soleil, parce que j'ai fait le choix de l'amour dans cette situation. Et l'amour, c'est le soleil, et la souffrance, la séparation, c'est les nuages qui me coupent de la sensation d'être connecté au soleil. Voilà, la semaine dernière, j'ai été guidé à diffuser une chanson de Cabrel, qui est magnifique, si vous avez l'occasion de l'entendre. Des hommes pareils, hein. Alors il disait tous dans le même aquarium, voilà, bienvenue aux poissons. Il disait aussi plus ou moins proche du soleil, hein, avec surtout c'est une chanson, l'esprit utilise tous les supports, les films, les émissions de télévision, les leçons, les apprentissages pour nous faire passer des tas de messages, hein. Plus ou moins proche du soleil, moi j'ai bien entendu, plus ou moins proche de notre lumière, avec une couche plus ou moins épaisse de séparation. Que je prie sur un tapis ou que je porte un crucifix, que j'ai 3 sous dans ma poche ou que je sois multimillionnaire, on est tous des hommes pareils. Plus ou moins nus sous le soleil. Voilà, donc cette chanson, je l'ai écoutée jusqu'à ce que son sens devienne éclatant pour moi. Merci Cabrel d'être l'interprète de l'esprit aussi. Voilà, donc ce soir, il n'y a pas de... c'est pas un groupe formel. Si vous, comme c'est enregistré, si vous parlez Merci de vous rapprocher un peu du centre pour que ça soit audible pour les personnes qui sont loin et qui profitent aussi de nos partages. Ce soir, la direction de la soirée est laissée à l'esprit. Je dirais c'est le cas pour toutes les soirées. Et je suis émerveillé en les écoutant après du résultat hein, de cette confiance-là que j'ai dans ce qui va se passer, dans cet abandon. Et je peux me détendre, j'ai rien à préparer à l'avance pour ces soirées-là, à part mettre quelques gourmandises sur la table ou un petit peu d'eau. Je vais dire 5 phrases qui vont m'aider encore plus à faire confiance à tout ce qui pourra se passer ce soir et toutes les formes que ça va prendre. Et ces 5 phrases sont citées en page 30 de Un cours en miracle. Et elles disent ceci. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Je suis ici pour représenter celui qui m'a envoyé. Je n'ai à me soucier ni de ce que je dirai, ni de ce que je ferai, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Je suis heureux d'être là où il souhaite que je sois, sachant qu'il y va avec moi. Je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. C'est des phrases extrêmement puissantes pour moi que je prononce très souvent dans ma vie, chaque fois que je dois animer un groupe, chaque fois je dois recevoir une personne en individuel, j'abandonne le désir de contrôler le cours des événements. Et dans cet abandon-là, je peux être le roseau creux à travers lequel Dieu joue sa musique en moi. Et je peux aussi entendre la musique comme quelqu'un qui l'observe, hein, qui est un petit peu à l'extérieur de ça. Donc ce soir, c'est informel, intervenez quand vous voulez. Vous pouvez piocher dans la corbeille qui est là-bas, si tu veux bien la rapprocher, pour tirer un titre de leçon comme un tarot. Vous pouvez piocher dans une des 14 questions, une phrase ou un paragraphe qui vous parle et puis partager à son propos. C'est intéressant si vous avez des situations de la vie personnelle, individuelle, qui sont conflictuelles, douloureuses, difficiles, incompréhensibles. C'est intéressant de les partager pour que ceux qui se sentent guidés à les éclairer avec la lumière de l'esprit, de ses enseignements, puisse donner un éclairage non duel sur ces situations qui n'ont qu'un seul but, nous rappeler qui nous sommes, même si c'est sous des formes parfois difficiles à comprendre. Donc, pourquoi c'est important? Parce que lorsque je parle de l'ego qui est à l'œuvre dans ma vie, lorsque je parle de colère, de jalousie, de tristesse, pratiquement 100% des personnes qui vont écouter cet enregistrement savent bien de quoi je parle. Parce que nous sommes venus avec ce choix d'incarnation, ce choix d'expérimenter qui nous ne sommes pas, nous sommes venus endosser tous ces manteaux-là, le manteau de la tristesse, par-dessus notre étincelle divine, par-dessus notre flamme. Nous avons volontairement obscurci cette flamme en prenant le manteau de la colère, le manteau de la jalousie, le manteau de l'avidité, du pouvoir, de la manipulation. Donc notre expérience comprend cela, hein, et notre expérience n'a qu'un seul but, nous rappeler qui nous sommes à travers ces perspectives-là différentes. Puisque c'est ce que nous avons souhaité, hein. Et si nous n'étions pas qui nous sommes, et si les choses étaient différentes, comment ça serait? Et nous avons imaginé une autre perspective. Et cette autre perspective, c'est juste pour nous extraire en rêve de l'amour, pour avoir le bonheur ineffable d'y retourner comme un poisson hors de l'eau. On n'a qu'une seule envie, retourner dans l'eau, parce que c'est l'eau qui est vitale. C'est avec l'eau qu'il existe, et notre existence est dans l'amour, par l'amour uniquement, même si nous pensons différemment. Alors, il y a aussi une partie de l'introduction du cours que j'aime beaucoup citer, parce que ça parle de l'amour justement, et c'est une forme de concentré de la portée de cet enseignement. Le cours ne vise pas à enseigner la signification de l'amour, car c'est au-delà de ce qui peut s'enseigner. Toutefois, il vise à enlever les blocages qui empêchent de prendre conscience de la présence de l'amour, qui est ton héritage naturel. L'opposé de l'amour est la peur, mais ce qui embrasse tout ne peut avoir d'opposé. Ce cours peut donc se résumer très simplement de cette façon. Rien de réel ne peut être menacé. Rien d'irréel n'existe. En cela réside la paix de Dieu. Voilà, je m'arrêterai en disant que en ce tout début de cette grande page blanche que représente 2011 pour moi, dans laquelle je peux inscrire toutes mes intentions de me réveiller, je ressens une grande joie et en même temps qu'une imminence. De quoi, je ne sais pas. Mais cette imminence est reliée à cette joie. Voilà, c'est ce que je peux dire maintenant. Et je souhaite vraiment, à travers ce que je fais dans ma vie, étendre cette joie tout autour de moi. J'ai parlé.
Eh bien, c'est notre premier lundi de l'année 2011 et je voudrais faire un témoignage, un petit court témoignage improvisé, un témoignage de grâce et de remerciement, simplement pour ce festin que le divin nous offre, qui nous donne la paix intérieure, une grande nourriture spirituelle, qui nous aide tous à chaque fois qu'on se réunit ici le lundi. Merci à chacun de nous parce que ce festin spirituel que nous bénéficions ici à chaque fois qu'on se réunit, non seulement c'est bien pour chacun de nous, moi je pense vraiment profondément que c'est aussi bénéfique pour toute l'humanité. Et vraiment, tout simplement, je voulais rendre grâce ce premier lundi parce que j'ai dit je ferai tout pour être là, même si je suis en retard, je viendrai. Et je souhaite venir le plus possible parce que c'est aussi ma façon de donner par ma présence ici pour le travail que nous faisons ici le lundi. Évidemment, merci beaucoup parce que ça nous apporte, même dans nos souffrances, dans toutes nos difficultés. Même si tous les jours on ne sait pas comment faire, mais de temps en temps on se ressaisit grâce à ce que nous avons. Voilà ce que je voulais témoigner, un remerciement avant. Merci à tous. Merci. Et bien comme par bonheur, j'ai dit souvent, je me dis au cours d'une formation que Yeshua était mon amoureux. Et qu'est-ce que j'ai tiré? Alors ce soir, c'est le numéro 306. Le don du Christ est tout ce que je cherche aujourd'hui. C'est incroyable.
Magnifique.
Merci pour ce tirage. J'ai le droit d'aller prendre mon thé, comme il lui dit, soyez toujours joyeux. Même ceux qui écoutent ne s'étonneront pas qu'ici c'est pas la souffrance là. porte est ouverte. Il paraît que l'univers n'aime pas trop le vide. L'univers n'aime pas le vide.
Vaut mieux rigoler même si on n'a rien à dire. Alors on va dire, ici c'est là ce soir.
Cette question de vide est souvent posée et cette question souvent vient, voilà, le vide existe-t-il? Et cette question fait couler beaucoup d'encre. Il est toujours extrêmement utile pour tout le monde, à des niveaux différents, mais pour tout le monde, devant toute question, toute, quelle qu'elle soit, de revenir à la réalité de ce qui est. Donc, par exemple, prenons l'exemple de cette question, le vide existe-t-il? Eh bien, qu'est-ce qui est vrai? Dieu est. Il n'y a que Dieu. Dieu, c'est esprit. Dieu, c'est esprit. Bien. Évidemment, pour nous qui sommes ici, dans cette expérience humaine physique, quelque part, quand on dit Dieu est esprit, on n'en a pas l'appréhension, on n'en a pas l'expérience comme ça. C'est normal, puisqu'on a choisi une expérience très particulière d'identification à une forme précise et avec des perceptions d'autres formes autour de nous et un monde apparemment extérieur. Or, le message de base, c'est que Dieu est tout ce qui est, il n'y a pas l'extérieur, il n'y a que Dieu. Mais quand j'ai n'importe quelle question dans ce monde, dans cette expérience humaine, que justement je nie pas mais que j'accueille totalement, et que à chaque fois je repars à « mais qu'est-ce qui est vrai? Quelle est la vérité ?» La vérité, c'est « Dieu est ». Bon, alors c'est un mot, j'ai dit « Dieu est », bon, c'est un mot. Et « Dieu est », ce sont deux mots qui sont duels, c'est-à-dire ce sont des mots qui font partie du rêve. Bon, les séparations « Dieu », j'emploie le mot « Dieu », je ne sais pas ce que c'est, mais bon, je m'observe employer ce mot. Et puis « est ». Alors, qu'est-ce qui n'est pas? Déjà, je n'ai pas de réponse. Mais il y a quelque chose avec qu'est-ce qui est vrai. Et peu à peu, on s'aperçoit les uns les autres que nous sommes dans un même processus qui nous semble évoluer vers quelque chose, qui nous semble évoluer vers quelque chose. Et finalement, c'est un processus, non pas d'évolution vers quelque chose, mais de lâcher prise, d'épuration, de nettoyage de fausses croyances. Quand je dis fausses croyances, ça ne veut pas dire que c'est mal. C'est-à-dire des croyances d'identifier un corps particulier. Mais nous avons choisi cette expérience d'identification, un corps particulier. Voilà pourquoi il est fondamental de ne pas la rejeter, même si c'est une illusion. On a choisi de jouer au jeu de l'illusion. Et comme nous sommes divins, il n'y a que Dieu qui est, qu'est-ce qui choisit? Ben, c'est Dieu. Mais ce n'est pas le Dieu que je connais, puisque j'ai choisi, avec toute ma puissance divine, un jeu illusoire dans lequel je semble être séparé. Donc évidemment, cette partie qui semble être séparée, elle est totalement impuissante. Le grand défi, c'est que dans ce jeu, cette partie qui semble séparée, qui est totalement impuissante, pour que le jeu soit joué, il faut qu'elle ait de l'importance. Il faut qu'elle soit quelqu'un, il faut qu'elle survive. Dans ça, le jeu s'arrête. Donc il y a un paradoxe énorme. Et alors, je suis en train de parler de quoi? Je ne suis pas en train de parler de ce que nous vivons tous, les 6 milliards 800 millions que nous sommes. Alors on va dire, mais alors qu'est-ce qu'on fait là? Le vide existe-t-il? Qu'est-ce qu'on fait? Mais quand je repars de ce qui est vrai, c'est-à-dire qu'il n'y a que Dieu et que Dieu n'est qu'amour, et que ce qui est, c'est être-té infini, donc ça n'est qu'un amour, c'est incroyable, et si on fait silence un peu pour laisser l'être-té nous envahir, on s'aperçoit qu'effectivement ça s'étend à l'infini. Ça ne contre rien, c'est impossible. Donc ça n'est qu'amour, ça ne peut être qu'amour. On s'aperçoit progressivement, chacun à sa façon, que ce qui est ne peut être qu'amour. Et comme je dis je suis, donc je ne peux être qu'amour, ainsi que tous mes frères et sœurs. Ah, voilà qui commence à devenir vivant, concret, dans mon expérience humaine, qui effectivement est un rêve. Ok, notre planète est une illusion puisque toutes les formes sont illusoires. Mais comme disait le fameux message, l'importance du oui, le message du 9 novembre, qui avait été canalisé par les deux Sylvains, Sylvain Didot et Sylvain Duboulet, dont on a pas mal parlé ici et qui est sur le site d'Avis, Eh bien, dire que la planète n'est pas réelle ne veut pas dire ne pas l'observer. Et justement, on a choisi un rêve, et c'est en observant le rêve, en justement l'accueillant, l'aimant, l'embrassant infiniment, sans rien en retirer, qu'à ce moment-là, les choses changent pour moi à l'intérieur de moi, dans ma perception. Et c'est ce dont parle le courant miracle en disant « Votre perception est fausse, mais en laissant faire l'esprit va réinterpréter pour vous votre rêve en une perception vraie. C'est encore une perception, donc c'est un rêve. Mais c'est un rêve d'amour. C'est un rêve d'amour. Et donc, nous sommes partis tout à l'heure de « Le vide existe-t-il ? » En fait, le vide n'existe pas puisqu'il n'y a que Dieu. Est-ce que Dieu est vide ? Quelque part, ça ne veut rien dire. On peut dire que Dieu est esprit. Parce que le vide, pour nous, dans cette expérience humaine, c'est un rapport avec des formes particulières, mais les formes ne sont pas réelles. Donc cette question n'a pas de sens pour la réalité, pour la vérité. Mais en même temps, elle fait partie de notre rêve. C'est OK. Donc au contraire, on l'accueille. Et on dit, mais le vide n'existe pas. Et c'est une façon de parler. Puis quelqu'un à côté va dire, mais il n'y a que le vide. C'est aussi une façon de parler, puisque aucune forme n'existe, donc c'est tout vide. Donc les deux peuvent très bien être dits. Et ça n'a aucune importance, mais aucune. Alors, je suis là, le vide existe-t-il ? Je suis là dans l'instant présent, et finalement, je reviens à ce qui est vrai sans cesse. C'est ce que le courant miracle appelle être focalisé sur le royaume, en permanence. Et le cours nous dit, vous ne pouvez pas être engagé de temps en temps. Peu à peu, dans notre vie, à chaque fois qu'il y a la moindre chose, intuitivement, d'une manière absolument naturelle, nous revenons à ce qui est vrai. À ce qui est vrai, qu'est-ce qui est vrai ? Dieu est. Dieu est tout ce qui est. Il n'y a que, alors le cours appelle ça le Christ, d'autres vont dire la vie, la source, le Saint-Esprit, l'Esprit 1, l'unité absolue de toutes choses. Bon, tous ces mots-là, mais quelque part on parle de l'unité absolue. Que nous sommes. Mais que nous avons oublié volontairement. Et pourquoi c'est volontairement ? Parce qu'il ne peut pas en être autrement. Et pourquoi il ne peut pas en être autrement ? À cause de la vérité de qui nous sommes. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que l'Esprit 1. Cet Esprit étant amour infini, et justement cette fameuse petite pensée dont parle le cours, la petite qui défole, ce petit jeu, et c'est vrai qu'on le répète tout le temps, forcément c'est un concept pour en parler. C'est-à-dire, et si je n'étais pas qui je suis ? Et si nous n'étions pas qui nous sommes ? Et tiens, et si on s'amusait à projeter à l'extérieur une partie de nous-mêmes pour essayer d'observer et de voir ? Ça suppose la séparation. C'est impossible. Seulement, c'est impossible, mais ça peut être imaginé. C'est impossible, mais c'est imaginé. Tout à fait comme un rêve, et c'est un rêve. Alors, notre planète, effectivement, on peut dire qu'elle n'existe pas très bien. La plupart des gens disent, mais ça ne nous aide pas de dire que notre monde n'est pas réel, ça ne nous aide pas, parce qu'en attendant, moi je vis cette réalité, pour moi c'est réel, et là je suis plus ou moins bien, et quand je suis mal, j'ai envie de m'en sortir. Effectivement, c'est la moindre des choses, bien sûr. Comment je vais m'en sortir ? Encore une fois, je reviens à ce qui est vrai, tout de suite. Tout de suite, je ne lâche pas le gros poisson. Je ne lâche pas la vérité. Je reviens tout le temps à qu'est-ce qui est vrai. Est-ce que c'est vrai que Dieu est tout ce qui est ? C'est vrai ou c'est pas vrai ? C'est à moi de décider. Que pense Jésus, Rabin Lamarchi, ou je sais pas qui, ou tel maître, mon compagnon, ma compagne, mes enfants ? Très bien, je respecte. Mais en attendant, je suis concerné personnellement. C'est-à-dire, à l'intérieur de moi, c'est à moi de choisir ce que je veux comme vérité. Est-ce que je veux la séparation ? Est-ce que je veux la peur ? Est-ce que je veux essayer d'arranger le monde ? Comme dit le cours, est-ce que je veux continuer indéfiniment ? Est-ce que je veux continuer indéfiniment pour faire l'harmonie, pour faire le paradis, à utiliser des moyens qui font l'enfer, c'est-à-dire davantage de séparation ? Parce que je suis créateur, voilà le truc qu'on oublie tout le temps. Et que nous avons tous oublié, les 6 milliards 800 millions que nous sommes, pratiquement tous. Nous avons oublié, dans ce jeu incroyable, que nous sommes créateurs. Parce que nous sommes qui nous sommes, parce qu'il n'y a que Dieu. Il n'y a que l'Esprit 1. Et donc, étant créateurs sans cesse, rien ne s'oppose à nos créations, nos imaginations, notre imaginaire. Et donc, nous vivons effectivement un rêve que nous avons choisi. Et nous avons choisi, c'est très bien fait, pour faire semblant de ne pas être concernés et d'être victimes d'un monde extérieur. Et c'est impossible, parce qu'il n'y a que Dieu. Donc, vous voyez bien que, en revenant sans cesse à ce qui est vrai, quelle est la vérité? Qu'est-ce que je choisis? Est-ce qu'il n'y a que Dieu vraiment? Est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que c'est simplement un verbiage intellectuel qui n'a aucun fondement? Ça ne m'intéresse pas. Alors, à des moments, on a l'impression, effectivement, que c'est du verbiage. On a l'impression, oui, mais c'est bien gentil, mais en attendant, dans ma vie concrète, j'ai tel problème, moi je suis angoissé, etc. Très bien. C'est pas nier. Rester centré sur la vérité n'a jamais nié des émotions négatives qui peuvent être très très fortes par moment. C'est pas nier. Et ça n'implique pas d'arriver quelque part. Ça implique simplement de choisir dans l'instant ce qui est vrai. Et j'aime beaucoup citer, je recite sans cesse, ce fameux chapitre 21 du Grand Miracle, sous chapitre 7, la dernière question restée sans réponse, où là, Jésus nous dit, là, on arrive à un point crucial de notre cours, parce que on a répondu, vous avez répondu aux questions, est-ce que je veux être heureux, pas heureux, est-ce que je veux un royaume que je gère, où il n'y a pas de pécheurs, etc. Bon, bien sûr, vous avez tous dit oui, il ne dit pas comme ça, mais vous avez dit oui. Mais vous avez changé d'avis. Parce que quelque part, vous êtes puissant. Et quelque part, vous fermez sans cesse des portes. Et vous donnez une valeur à la souffrance. Vous donnez une valeur au mérite, à l'effort, à se battre, à la lutte. Et ça n'en a pas. Mais vous êtes puissant, vous êtes créateur. Et donc, vous ne vous rendez pas compte que vous avez que sans cesse, vous choisissez tout ça. Et que, comme du coup, encore une fois, vous ne cessez, pour faire le ciel, d'utiliser les moyens qui font l'enfer. Alors, là, maintenant, qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce qui est vrai? Et la dernière question restée sans réponse est la suivante. Est-ce que je veux ce que j'ai nié parce que c'est la vérité? Et qu'est-ce qui est la vérité? C'est qu'il n'y a que Dieu, et que l'amour, et que la source. J'ai nié ça, je me suis amusé, très bien, ça n'a rien de mal, mais c'est impossible. Est-ce que je choisis que c'est impossible? Et alors, je peux dire, oui, oui, d'accord, je dis oui. Et je dis oui. Et c'est ça l'importance du oui, le message qu'on a reçu il y a 2 mois, là, avec Sylvain Didlot, qui est sur le site d'Avi, l'importance du oui, du 9 ou 10 novembre, hein, vous pouvez regarder si vous voulez, il est magnifique ce message, il est plein d'enseignements. Et nos guides, disons l'univers, le monde de l'esprit, le monde de l'amour, nous dit « on a besoin de votre oui ». C'est exactement ce que dit le courant miracle en disant « on a besoin de votre petite bonne volonté ». Parce que l'esprit dit « j'amène le sans-forme à la forme ». Mais on a besoin du pain inverse, c'est-à-dire on a besoin que vous, dans la forme, vous apportiez la forme au sans-forme. Mais vous n'avez aucun contrôle sur l'action, c'est nous, c'est l'esprit, c'est Saint-Esprit. Vous croyez avoir un contrôle, vous n'avez aucun contrôle. Mais il y a ce oui, parce que c'est vous qui avez créé tout ce cirque, tout ce monde, toute cette pièce de théâtre. Et dans cette pièce de théâtre, la magie, c'est le retour à la maison en disant, eh bien là, nous sommes dans l'obscurité, je ne vois pas clair, je ne sais rien, mais je laisse l'esprit me guider. Et je dis oui à l'esprit, je dis oui à l'amour, je ne sais pas ce que c'est, je ne vois rien, je n'ai aucune solution. Je peux me sentir très mal. Mais je dis oui, et je reste fixé sur ce qui est vrai. J'insiste bien, parce que ça a l'air de rien. C'est vrai que je suis un peu guidé là, à parler un petit peu avec force. Mais c'est parce que c'est vraiment la clé de toutes les situations, sans aucune exception. Alors, c'est pas nouveau. Bien sûr, on est les uns les autres, on a souvent partagé ça ici et ailleurs. Eh bien, on repartage une nouvelle fois ce soir. Et merci de m'avoir pu le réexprimer, parce que c'est vraiment la clé. Il n'y en a qu'une. C'est ce qui est vrai, c'est la vérité, c'est qui nous sommes. Et nous sommes déjà ce que nous cherchons. C'est ça la grande découverte. Et maintenant nous avons davantage de messages, comme le message d'Abraham X que Avi a mis sur son site aujourd'hui, en disant que pratiquement de nouvelles choses se passent en nous. Et nous sommes davantage, disons, véhicule de la vérité, d'une manière complètement naturelle. Mmh. On n'a rien enseigné à personne, on dit ce qu'on sent, personne n'a à comprendre ce qu'on dit, et on observe, et moi j'en témoigne, et je ne suis pas le seul parce que j'ai beaucoup de témoignages autour de moi, je témoigne de nouvelles choses, de nouvelles façons d'être, de nouveaux dialogues, de nouvelles situations, qui sont des choses extrêmement simples. Simples. Tout à l'heure, je suis à Franprix, dans un quartier nord de Paris, un quartier un peu indien, et puis je rentre là, et puis j'ai une femme qui me laisse passer, j'avais qu'un seul article. Et elle me dit, passez s'il vous plaît. Et comme j'ai été très touché par une grosse bronchite il y a quelques jours, et je lui dis en riant, merci madame, je suis en convalescence. Et elle me dit, ah, eh bien, moi ça va bientôt être mon tour. Je lui dis, vous rentrez en clinique? Elle me dit oui. Mais je lui dis, ça vous fait un peu peur? Elle me dit oui. Je lui dis, écoutez madame, vous n'avez pas à croire ce que je vous dis. Oubliez, ça fait rien. Je peux vous dire une chose. Vous choisissez toutes vos expériences. Tout dans votre vie. Et donc, tout va bien. Je ne sais plus ce que je lui ai dit. Ça n'a aucune importance. Mais je l'ai regardé dans les yeux, elle m'a regardé dans les yeux, et puis c'est tout. C'est tout. Il n'y a rien à dire. Il n'y a pas à regarder les mots. Et j'ai senti un amour, une présence. Et ce genre de situation-là, ça se passe de plus en plus. Et nous en témoignons les uns les autres. Et comme disait tout à l'heure Avi, comme nous sommes un, eh bien, des situations comme ça, nous sommes tous connectés, donc elles sont quelque part étendues aux autres, dans des domaines subtils. C'est ce que nous disent nos guides, de plus en plus. Et ce que dit déjà le cours, déjà dans les 50 principes, au début, en disant les miracles peuvent toucher des gens que vous n'avez jamais vus, que vous ne connaissez pas, etc. Parce que nous sommes reliés. Mais ça, c'est le travail de l'esprit. Et dans le message d'Abraham X, là, que Avi a mis sur son site aujourd'hui, qui s'appelle comment, Avi?
Maintenant, vous êtes libre.
Maintenant, vous êtes libre, c'est ça. Qui dure 9 minutes. Eh bien, nos guides parlent, Abraham, les guides d'Abraham parlent de ça d'une manière extrêmement concrète. Et si j'en parle ce soir, c'est parce que je sais que ça va faire écho, c'est pas mal d'entre nous, qui, dans leur domaine, vivent les mêmes choses, vivent de nouvelles situations, de nouvelles impressions, en disant, mais c'est vrai, ça devient réel tout ça. Avant, c'était plus théorique. Maintenant, c'est très, très concret. Et c'est très joyeux. C'est très joyeux. Et moi, je dois dire, ça me... quand j'ai retrouvé tout à l'heure Avi en venant ici, je suis arrivé un peu tôt parce que ça roulait très bien, eh bien, j'étais heureux, je sens du nouveau pour ce 2011. Et Avi me dit, mais moi, 2011, j'adore, je le sens. Et je lui dis, mais moi aussi. Et on se sent vraiment frères les uns les autres. Enfin, la sœur, bien fait, vous comprenez. Et c'est vraiment concret. C'est très concret. Et vous qui écoutez cet enregistrement, si vous vous laissez simplement aller, ce que vous êtes en train de faire d'ailleurs, eh bien vous le sentez. Et je sais que certains sont touchés très fortement. Et ça fait partie du jeu. Et c'est pas personnel, parce que le jeu c'est toujours l'esprit qui le joue. Mais c'est vrai qu'il y a de nouvelles choses, comme dit le message d'Abraham X, il y a de nouvelles façons de percevoir, de ressentir. C'est comme si nous arrivons vraiment devant un feu d'artifice merveilleux qui commence à éclater de partout. Voilà, c'est très joyeux. Comme dirait Vigée.
participation, c'est nous qui choisissons, cela me semble juste. J'ai vu le sujet qui était basé sur l'unité, le sujet de ce soir, et j'avais médité depuis 15 jours une idée qu'on avait évoquée en flash, je lui dis de mes mots. C'était pas exactement ça, mais l'idée est la même. Il y aurait les karmas des Européens, des Américains, on dirait des Africains, etc., etc. Et on témoignait que, comment il s'appelle encore, celui qui parle beaucoup du présent, le moment présent,
Cartolé,
quelqu'un qui dirait, mais c'est Cartolé qui dit, c'est juste. Alors j'ai médité de cette façon de parler, pour moi, j'ai vu que tout est juste, et c'est chacun qui fait son choix. Et comme je me disais, j'avais suivi une formation, à un moment donné, je n'aimais pas ce qu'on parlait de... des idées d'hérédité, de tout ce qu'on peut hériter de négatif de ses parents, etc. Et j'aime bien dire que je suis amoureux de Yeshua parce que chez Yeshua, d'après moi, c'est moi qui l'ai dit, ce n'est pas une parole d'évangile, c'est ce que moi j'ai compris. Tout ça pour lui s'est dépassé. Il n'y a plus de karma, il n'y a plus de machin, on est tous des enfants innocents, parfaits de Dieu. Et si nous parlons d'unité, il n'y a plus de karma de l'Occident, des Africains, etc. En même temps, comme dit Sylvain, ça existe. Et moi-même, je sais très bien que ça existe. Les coutumes africaines existent vraiment. Vous voyez de vos propres yeux de ce qui se passe et on se dit, c'est pas possible. Mais comme dit Sylvain, en même temps, c'est nous qui choisissons. Et je dis souvent ici dans ce groupe, souvent en rigolant, que quand on est seul de choisir, c'est pas évident, mais en même temps, on est tous, on est soutenu si on est vraiment, si on choisit vraiment de croire à ce qu'on fait. Parce que cette réalité, en même temps, ça existe. Ça existe des traditions, des coutumes, des karmas de tel pays. C'est-à-dire que vous verrez dans une famille un certain comportement presque aux parents, aux grands-parents qui se répètent. Donc il faut un nettoyage. Mais quand nous choisissons, je parle de moi, enfin c'est pas facile, mais j'essaye, je choisis de dire non, moi je choisis d'être l'enfant innocent de Dieu, parfait, je vais essayer d'être comme il m'a créé, mais tout en reconnaissant quand même de temps en temps que ça existe cette réalité, parce que je vois cette réalité, mais je le vois pour ma part, j'essaye de voir avec les yeux de Dieu, tout en sachant que ça existe. Donc moi, je choisis, je me répète, comme dit Sylvain, je choisis de voir du bien. Je choisis de voir du bien, quel qu'en soit, et je considère cette illusion, je considère ce qui se passe comme une illusion. Et pour moi, pourquoi pour moi ce choix, c'est personnel, hein, parce que nous partageons, chacun a sa façon de partager. Je me suis dit, pourquoi ça? Je pense que pour certains, ils ont besoin de traverser encore cette étape, d'accepter cette réalité. Parce que peut-être que si on saute des étapes, ça n'ira pas. Mais pour ma part, je pense que, sans ego, mais avec beaucoup d'humilité, que je choisis pour moi de voir autrement. Ce n'est pas facile tout à fait, surtout quand on vient de loin, comme je viens, entre guillemets, ce n'est pas évident. Mais je choisis de voir cette perfection, parce que je sais que la pensée crée. Plus je verrai ainsi, plus je vais m'harmoniser avec cette réalité. Et plus je verrai cette vérité vraie, même s'il y a des intermédiaires ainsi. Alors, celui qui a besoin de ces intermédiaires, je n'ai pas de jugement non plus. Hein, puisqu'il y a ces karma qu'il faut nettoyer, qui existe en réalité. Mais moi, je choisis de dire que non, je suis l'enfant de Dieu, j'accepte mon innocence telle que je suis, et j'ai besoin de me voir un peu plus lumineuse avec la perfection de Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Mais vraiment... c'est un choix.
Oui, c'est la forme de ta pensée. Mm-hmm. Ta pensée, tu as choisi une pensée plus forte encore que celle qu'on a voulu t'induire, mais dans tous les cas, il s'agit d'une idée. Mm-hmm. Peu importe. Mm-hmm.
Et à ce sujet, on peut préciser quelque chose d'important, parce que ça va revenir très souvent dans les groupes, on les partage individuels ou collectifs. Quand on dit, par exemple, et ça existe, le karma de tel pays, telle chose, ça existe. En fait, ça n'existe pas. Ça existe parce que
ça semble exister parce que des frères et des sœurs y croient. C'est très important. Et si tout d'un coup on prenait tous conscience que vraiment cette planète est illusoire, notre espérance, elle changerait du tout au tout, tout de suite. Donc, l'amour, et justement c'est ça la grande découverte, c'est que nous accueillons avec amour toutes les pensées, les croyances de nos frères et sœurs, qui croient au karma, qui croient, même au reiki, aux soins à distance, etc. Parce que ce n'est qu'encore qu'une étape, tout ça. Et c'est très bien, ça fait partie du jeu. Donc ça va très loin. Mais puisque tout est parfait, tout est parfait. Donc, et comme dit le cours en miracle, la guérison est de l'esprit, c'est pas le corps. Donc quand on envoie par exemple, je prends cet exemple-là, et moi j'ai même participé à ça, puisque des êtres sont venus me proposer de faire des soins énergétiques et avec un travail à distance, mais j'avais déjà compris depuis le départ que la seule chose c'était de laisser l'énergie faire et j'envoyais rien du tout. Mais je sais que la plupart de mes frères et sœurs envoient des choses ou s'imaginent envoyer des choses. Effectivement, et il y a des résultats bien sûr parce qu'on y croit. Et c'est ok, ça fait partie du jeu. Donc voilà, c'est difficile d'en parler parce qu'on semble critiquer, mais pas du tout. On accueille avec amour toutes les croyances, quelles qu'elles soient. Des croyances qui font des choses merveilleuses et aussi des guerres, qui font des tas de choses. Et on accueille tout ça dans l'amour. Et effectivement, comme vient de dire Clérisis, je choisis la vérité, donc je choisis le bien sans opposer, je choisis la perfection, je choisis le Christ qui est chacun. Les 6 milliards 800 millions. Apparemment, il y a des guerres, il y a tel pays, ceci, cela, il y a des difficultés, des changements de gouvernement, des haines, des haines, des tas d'attirants, de rejets, plein de choses. Comment je vais accueillir tout ça? Dans l'amour, justement, comme vient de dire Clérisis. J'accueille dans l'amour, c'est tout. Et j'accueille dans l'amour, à ce moment-là, je ne change rien. L'amour ne change rien. L'amour est. L'amour est tout ce qui est. Il est présence infinie. Il est présence amoureuse infinie. C'est vraiment ça. Et donc, notre rôle, justement, on commence à vraiment comprendre ça. Ça ne consiste pas à faire, ça ne consiste pas à faire des groupes, ça ne consiste pas à écrire des bouquins. Bien sûr, on va s'observer, tiens, je fais des groupes. Tiens, je m'appelle la vie, et puis j'ai une maison que j'adore, je suis en train de l'organiser, je fais des tas de groupes, des tas de choses, c'est formidable. Bien sûr, je suis guidé à faire ça. Mais quelque part, je sais que ce n'est pas nécessaire. Parce que ça sert à quoi, ça? À réveiller tout le monde. Réveiller à quoi? À qui nous sommes déjà? Et donc, personne ne manque de rien. Mais ça va très très loin. Cette notion d'amour, de présence amoureuse, où le conflit a totalement disparu. Et il n'y a plus qu'un amour accueillant infini, dans l'instant présent. Et ça ne concerne que moi, jamais les autres. Comme dit le cours en miracle, n'oublie jamais que tu ne rencontres que toi-même. Mais le vrai toi-même avec un T majuscule. Merci Clérisis, merci à chacun, parce qu'on peut vraiment partager ça maintenant d'une manière plus claire. Et on sent bien qu'on est tous les uns les autres poussés dans des situations souvent pas très faciles, qui peuvent même pas, par moments paraître très difficiles, ça peut arriver, c'est pas nié par nos guides, mais quelque part nous commençons à vraiment nous réveiller à une intention pure, un choix de la vérité. Comme disait Zéhabi tout à l'heure avec les 5 phrases qu'il nous disait, je ne suis ici que pour aider véritablement. Je suis juste ici pour représenter celui qui m'a envoyé et je n'ai pas à me soucier de ce que je vais dire ou de ce que je vais faire, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Et ça, c'est tout le temps. Je n'ai pas à me soucier. Et c'est dans l'instant présent. J'ai même vu des enseignants spirituels qui récupéraient ça en disant que c'est valable pendant 3-4 secondes ou 10 secondes.
Il reste le temps.
Mais c'est vraiment c'est tout le temps maintenant. Et oui, c'est drôle, parce qu'effectivement...
maintenant, seulement.
Voilà, parce que à quoi nous touchons ici? Nous touchons à un phénomène qui est partout. C'est que des outils temporaires sont donnés. Par exemple, des soins énergétiques. En plein massage, par exemple, une balade en forêt. Un groupe, un séminaire, une conférence, etc. Ou un dialogue, une relation. Et l'esprit se sert de tout ça. Mais... Et l'esprit humain, comme il sent que l'esprit s'en sert et qu'il voit des changements, il donne une valeur à l'outil. Alors qu'en fait, ça n'en a pas. C'est utilisé par l'esprit. Ça fait partie du rêve, c'est pas réel. Donc ce qui n'est pas réel ne peut pas avoir de valeur. Ça n'empêche pas que c'est utilisé par l'esprit. Le plus bel exemple que nous avons tous, que nous connaissons bien, c'est nos rêves la nuit. On rêve, et puis tout d'un coup on peut se réveiller une petite fois très frappé par un rêve, avec dans une ambiance incroyable, ça nous fait travailler plusieurs jours. On dit voilà, ce rêve est vraiment initiatique, il m'aide, etc. Et ce n'est qu'un rêve. Ça n'empêche pas qu'il y a un effet. Et c'est la même chose. Donc les outils dont se sert l'esprit, qui sont irréels, qui n'ont pas de valeur, mais l'esprit s'en sert et inconsciemment, nous leur donnons une valeur. Et peu à peu, on s'aperçoit que ça n'en a pas. Parce que vers quoi allons-nous? Vers le rappel de qui nous sommes. Vers ce que nous avons toujours été. C'est pour ça qu'on peut dire qu'il n'y a jamais d'éveil. L'éveil est un mythe. On s'éveille à qui nous sommes. On a toujours été ça, et donc c'est pour ça que c'est un grand éclat de rire. Mais c'est pas nié quand même dans l'illusion. Ça fait partie des outils, l'éveil. J'aime bien dans le livre de Tom Carpenter, Dialogue sur l'éveil, que j'ai traduit en français, Dialogue on Awakening. Eh bien, et j'ai repris ça dans les deux pages que j'ai réécrites là sur l'annexe à la traduction française, en disant que finalement, le processus d'éveil, c'est un processus de l'ego. Et c'est un processus de lâcher prise. Parce qu'en réalité, il n'y a pas d'éveil. Mais il y a apparence d'éveil. Oui, ça, c'est pas nié. Hein. C'est pas nié, on est tous dessus, on sait très bien ce dont nous parlons. Parce qu'effectivement, quand on a, par exemple, tout d'un coup, une prise de conscience de la présence divine, quand on a, tout d'un coup, par le cœur, un sentiment de la présence, de l'amour, c'est fantastique. Et ça, c'est pas nié, bien sûr. Donc, nous jouons au jeu en sachant que c'est un jeu. Et évidemment, alors on va dire, mais le jouer, on joue comment? Alors on a répondu, évidemment, on joue dans l'amour, il n'y a que ça. Il n'y a que l'amour. Il n'y a que l'amour, parce qu'il n'y a que l'amour qui existe, qu'il n'y a que l'amour qui soit réel, qui soit la vérité. Et c'est ça que nous sommes.
Oui, je pense que ça peut être une lâcher prise, l'éveil, parce que je me souviens qu'on avait dit qu'il y a un prisonnier, qu'on peut s'éveiller en prison, donc quel qu'en soit ce qu'on a fait, même s'il est plus grand méchant du monde, entre guillemets, en illusion, en apparence humaine, considéré comme le plus méchant, le plus voleur, tout ce qu'on peut dire, ça n'empêche pas de s'éveiller, puisqu'un prisonnier s'est éveillé. Donc, ça peut être une lâcher prise, une prise de conscience. Il m'a choisi. Mon amoureux chat.
Moi, je voudrais parler de l'abandon ou du lâcher prise ou de la confiance en tant que témoignage de ma vie personnelle. Quel que soit le mot que j'utilise, il s'agit de la même chose. Il s'agit de me laisser guider par un courant de vie qui n'est pas ma volonté personnelle, hein, qui n'est pas guidé par je veux, qui plutôt laisse la barque flotter librement sur la rivière ou sur l'océan. Moi, j'ai bien conscience que c'est un processus dans ma vie qui m'a fait à un moment très peur. Le fait de arrêter de contrôler. Hein. Pour mon ego et ma personnalité, c'est vraiment effrayant de dire « je ne contrôle plus rien ». C'est le fond de commerce de l'ego de contrôler ce qui se passe. Et si je suis identifié à l'ego, alors je vais croire que je vais cesser d'exister, puisque l'ego me donne la fausse sensation que j'existe à travers mon corps. Bien, ça c'est une chose. Quand j'ai commencé à faire des petites expériences de
deux points, ouvrez les guillemets, je fais ce que j'ai à faire, je remplis ce qui me met en joie et que je reconnais comme étant ma mission, et je laisse l'univers régler les détails pratiques. C'est-à-dire, je ne m'occupe pas de la forme, je ne m'occupe pas du niveau matériel, je ne m'occupe pas de comment payer mon loyer, je m'occupe de ce qui me met en joie et de quelle est ma place dans le puzzle de ce rêve, de cette société humaine. Quand j'ai commencé à écouter cette phrase qui dit « l'indice pour avancer, c'est la joie », quand j'ai commencé à écouter cette phrase, dans la joie, il n'y a pas de « je veux ». Dans la joie, c'est « ça m'appelle ». Dans la joie, c'est « plus j'avance et plus je suis heureux ». Et ce n'est pas une volonté d'arriver nulle part, parce que je sens qu'il n'y a pas de fin à ce chemin. C'est juste de mieux en mieux. Comme dit le cours, c'est l'extension du bonheur parfait qui est déjà parfait, qui s'étend encore plus. Donc, quand j'ai vu que aller avec ce qui me rend joyeux, ça rajoute encore du bonheur dans ma vie, alors là, j'ai commencé à dire à l'ego, tu vois, tout va bien, tranquillise-toi, tu contrôles pas, mais c'est pas grave. On va essayer sans le contrôle. Hein. Je t'ai laissé contrôler ma vie pendant 40 et quelques années, au moins. Maintenant, est-ce que ça m'a rendu heureux? Bof, hein, je dirais, où j'ai exploré beaucoup de voies sans issue. Et à un moment donné, j'ai eu cette phrase initiatique devant la première séance de thérapie, à la première seconde de thérapie sur laquelle j'ai été propulsé sans même savoir que c'était une thérapie. J'ai dit, jusqu'à quand? Ces deux mots-là, jusqu'à quand, je vais répéter cet isolement du monde, cette bulle de verre dans laquelle je semble vivre coupée des autres, où je baisse les yeux et je considère l'autre comme un danger. Je l'ai tellement essayé, mais tellement essayé, que j'en ai eu un dégoût. J'en ai eu la nausée de ça. Et j'ai dit à ma thérapeute, j'en ai assez de vivre dans ma bulle. Je n'ai pas envie de mourir comme ça. Cette phrase-là a été un déclencheur magnifique pour moi, pour commencer à regarder les autres dans les yeux, commencer à booster la thérapie parce qu'il y avait derrière ces deux mots le désir de me connaître. Il y a « j'arrête de me cacher ». Et la thérapie a avancé à pas de géant parce que j'étais déterminé. Et c'est pas de la volonté de l'ego, ça. C'est, par-dessus tout, je veux me connaître, je veux voir les choses différemment, hein, comme dit la leçon de la cour en miracle. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à considérer, en effet, que j'étais une pièce du puzzle et que j'ai à imiter personne. Il y a un texte récent, hein, de Simon Leclerc, je crois, que j'ai à faire exactement ce que j'ai à faire moi, hein, ce que je sens qui est ma place, et que je suis à ma place parfaite dans le monde. Et que quand je fais ça, alors l'univers me déroule le tapis rouge en réglant les formes, en réglant l'espace et le temps pour que j'ai le lieu parfait pour faire ce que j'ai à faire, pour que j'ai l'argent pour faire ce que j'ai à faire, que je n'ai pas à me préoccuper de ça. De temps en temps, en effet, l'ego revient à la charge en me disant « Oui, mais attention, Avine, tu vas peut-être manquer un jour, occupe-toi de faire rentrer l'argent. » Voilà. Et en même temps, j'entends cet enfant intérieur qui n'est pas tranquille et je peux arrêter de le prendre pour qui je suis. Hein, cette partie qui est séparée, qui se sent menacée, je la vois pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une partie qui a une croyance que tout n'est pas parfait, que je vais pouvoir un jour être en manque, que je vais pouvoir être un jour menacé par le monde, et que je vais être expulsé de chez moi, et que je vais finir mendiant, ou dans le dénuement total. Et à cette partie-là, du plus fort de la conscience de qui je suis, je peux lui dire « tranquillise-toi ». À l'instant d'après, hein, à l'instant où je peux observer l'agitation, je peux dire « tranquillise-toi, tout va bien se passer ». Comme dit Henri Gougaud, j'aime beaucoup cette phrase, hein, « la confiance, c'est la certitude que rien n'est sûr, mais que tout va bien se passer ». Voilà. Donc, pourquoi le lâcher-prise? Pourquoi la confiance, malgré la résistance énorme de l'ego? Pourquoi j'ai adopté cette attitude de plus en plus dans ma vie? Parce que je sais que ça me rend heureux. Parce que je sais que quand je mets le premier pas dans la confiance, le tapis rouge se déroule à encore un pas, pour que j'ai un autre pas à effectuer sur le tapis rouge. Et les événements de ma vie sont là pour me dire... l'indice de la joie, c'est le bon, parce que tout s'organise et c'est ce qui m'amène le bonheur de l'étape suivante, hein, de l'étape du tapis rouge qui va se dérouler. Donc, ça demande le petit risque de plonger, de monter sur le plongeoir, mais comme je le dis parfois dans mes groupes de tantra, je crois être sur le plongeoir alors que je suis déjà dans la piscine chaude et parfumée. Donc, je monte quand même en apparence sur le plongeoir, je fais semblant de prendre le risque de plonger dans l'eau froide alors que je sais parfaitement que l'eau n'est pas froide et que ce n'est pas un bain glacé dans lequel je vais aller. Mon ego s'amuse à me faire jouer le rôle de quelqu'un qui prend de grands risques, alors que lorsque je fais ce premier pas qui dit jusqu'à quand, et lorsque je fais ce premier pas qui déclenche tous les autres, alors je sens que je suis dans le courant qui invite l'abondance. Je suis dans le courant dans lequel l'univers me dit « Ok, patron, tu veux jouer le rôle que tu as prévu de remplir sur cette planète. Ok, patron, moi j'arrange les détails. Toi, tu as juste à poser ta signature sur ce que tu fais. » Et c'est ça le message primordial pour moi. Même si c'est un rêve, dans ce rêve-là, ma mission, c'est de m'éveiller à qui je suis et de rayonner ça. Et comment ? En me laissant guider à faire ce qui me met en joie. Parce que la joie, c'est du ressort du divin. La joie, je ne peux pas la fabriquer. La joie, je ne peux pas la simuler. Une femme est enceinte ou n'est pas enceinte, comme dit très bien Sylvain, souvent. Je suis joyeux ou pas. Jamais je pourrais faire semblant d'être joyeux. Hein? C'est un rictus. Hein? C'est l'ego qui a un rictus. Lorsque... Et ça ne ressemble pas du tout à ce qui est joyeux. Donc quand c'est joyeux, ça s'enflamme en moi. Hein. Ça s'enflamme j'ai qu'une envie, c'est d'alimenter ce feu en continuant, en amplifiant. Et là, je me sens divin parce que ce divin-là n'a qu'une seule, une seule et même volonté, c'est d'être toujours plus qui je suis, hein, qui il est. Ce lâcher prise inspire le lâcher prise d'après, de la seconde d'après. Cette confiance inspire la confiance du moment suivant. Et c'est le premier que j'ai à faire. C'est seulement le premier que j'ai à faire. Parce qu'avec le premier, les miracles abondent. Les miracles arrivent sur un plateau avec le premier. Parce que j'ai dit, enfin... le Saint-Esprit dirige ma vie et ce n'est pas moi qui dirige ma vie. Et j'ai tiré la leçon 295. Le Saint-Esprit regarde par moi aujourd'hui. Lorsque je peux faire confiance que tout ira bien, malgré mes croyances que tout va s'effondrer, j'ouvre la porte à ma propre lumière. Il y a quelqu'un qui disait, nous sommes des fêlés de la lumière. Il y a des fissures qui naissent et qui laissent passer la lumière que nous contenons de plus en plus. Voilà. Aujourd'hui, je suis heureux d'être fêlé de cette manière-là. J'ai parlé.
À propos de lumière, Avi, tu viens de citer, tu viens de dire que tu étais comme fêlé de la lumière. J'ai tiré la leçon 73. Je veux que la lumière soit. Alors, c'est pas évident. Parce qu'on dit, mais la lumière est. Et la leçon 73, du coup, dit, je veux que la lumière soit. En anglais, c'est I want there be light. Comment est-ce que ça peut être? Pourquoi est-ce que je veux que la lumière soit puisque la lumière est? Et bien là, je touche vraiment de plein fouet à ce que le cours appelle la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour toi est le bonheur. Il n'y a que Dieu. Donc Dieu et moi, on est un. Et donc, le bonheur est. Et la volonté de Dieu, c'est que la lumière soit, donc la lumière est. Et puis, j'ai cette leçon, 73, je veux que la lumière soit. Donc là, je suis attiré tout de suite par je veux. Parce qu'on me dit, oui, mais il y a la lumière, il y a Dieu, etc. Puis voilà, puis... Mais quelque part, la personne dit, je veux. Donc, j'ai cette notion de volonté qui est déjà accompli, mais qui existe. Je commence à comprendre qu'effectivement, c'est encore un instrument didactique utilisé par le Maître Jésus, cette notion de volonté. Et dans la notion, dans le cours, il n'y a qu'une volonté, c'est la volonté de Dieu, celle de mes frères et sœurs, la mienne, tout ça c'est un, c'est la même. Et tout est, et pourtant il y a une volonté. Donc il y a la notion d'intention, de volonté. Et effectivement, dans cette magnificence d'amour, d'éternité, de présence éternelle, il y a l'immuabilité, il y a l'essence, il y a ce qui est jamais éternel, qui ne bouge pas. Et paradoxalement, il y a un mouvement incroyable. Ce que le cours appelle l'expansion, la création, c'est-à-dire l'extension de soi-même, dont Avi vient de faire... a fait allusion tout à l'heure. Donc il y a un paradoxe. Tout est immuable, il n'y a que Dieu, et dans cette immuabilité infinie éternelle, il y a un mouvement d'expansion qui est la création, ce que Jésus appelle la création. Qui n'est rien d'autre qu'une extension de soi-même. Une extension de l'infini. Alors évidemment, c'est un peu intellectuel à dire, c'est vrai. Mais ça montre bien que cette notion de « je veux », ça m'appartient. Ça m'appartient où? Mais là, maintenant, dans mon expérience humaine. Souvent, je dis que, c'est bien gentil, on parle de la planète qui est pas réelle, ceci, cela, n'empêche qu'on est 6 milliards 800 millions à vivre une expérience d'être apparemment, de ressentir un corps physique, de dire tous qu'on soit 6 milliards 800 millions, oui, on a une carte d'identité, en disant on est né tel jour et on... Et voilà, et tel sexe, etc.
Et ça, c'est un jeu commun. Et il ne s'agit pas de le nier. Souvent, on dit, mais vous niez le monde. Mais pas du tout, au contraire. Au contraire, on accueille ça à fond. Parce que j'ai voulu cette expérience. Alors, qui a voulu cette expérience? Ça, je ne sais pas. Parce que je ne sais pas qui je suis. Mais il y a quelque chose avec la volonté. Et comme dit le Jésus dans le cours en miracle, tout ce qu'est l'ego, c'est la croyance que quelque chose peut arriver au Fils sans sa volonté. Et le Fils, c'est moi, c'est nous, c'est qui nous sommes. Donc, cette notion de volonté, quelque part, je ne peux pas y échapper. Quelque part, elle est toujours là. Dans mon expérience éternelle, où il n'y a pas de mort. Mais effectivement, la surprise, c'est que quand le corps s'arrête, eh bien, l'expérience continue. Elle continue indéfiniment, à l'infini. Ce qui nous importe, évidemment, ce qui est la moindre des choses, et tout à l'heure, Clérédis en parlait, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'harmonie. Donc quand je dis « je veux que la lumière soit », bien sûr, c'est un instrument didactique, mais ça montre bien l'importance de mon choix, de l'importance de ma décision, de ce que je veux vraiment. Et le travail que nous faisons ici tous sur cette planète, c'est une épuration de cette volonté profonde. Parce qu'on a choisi une expérience pour prouver que l'aspiration était réelle. Donc il fallait arranger le monde, il fallait essayer d'avoir des bonnes relations, de se faire aimer, de mériter, d'être premier de classe, etc. Comme ça, à l'infini, vous savez très bien. Mais vraiment, c'est très précis. C'est tous ces phénomènes, on ouvre les journaux, on regarde, et ben, c'est tout le temps la même chose. Il faut mériter, il faut se faire valoir, il faut faire attention au regard des autres, il faut préparer les vacances, le bronzage sur la plage, pour, etc. Enfin, c'est incroyable, c'est tout comme ça. Et c'est ok, parce que le mal n'existe pas. C'est totalement inhérent à ce choix incroyable de s'amuser à « et si nous n'étions pas qui nous sommes ?» Et donc à ce moment-là, si je m'imagine être un corps séparé, évidemment à ce moment-là j'ai immédiatement des besoins, immédiatement il faut que j'attaque et je me défende. C'est ce qu'explique le cours en miracle. Et ça n'a rien de mal. Donc j'accueille ça. Donc je veux que la lumière soit. Ça montre bien que il y a quelque chose par rapport à la volonté. Et quelque part, il y a quelque chose en moi qui pousse, en moi évidemment et en chacun. Et c'est quelque chose, c'est l'amour, c'est qui je suis. Et ce quelque chose qui est l'éternité, ça ne ment pas, ça raconte pas d'histoire, parce que c'est ce qui est. Et donc, ce qui est, c'est une loi, c'est la loi d'être. C'est la loi d'amour infini, d'extension infinie, de don infini. Ça ne prend rien. Dieu ne prend rien, Dieu n'a besoin de rien. Et donc, ce que je veux, je suis en train de clarifier ma volonté profonde, qui est une volonté d'amour infini, mais sans concession, ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Tranquillement, l'amour inconditionnel. Alors bien sûr, ce mot, il est répété partout, l'amour inconditionnel, mais si les uns les autres, on fait un peu silence en disant, mais de quoi je parle? Je parle d'amour inconditionnel. Est-ce que c'est inconditionnel 99,9% du temps, ou 100%? C'est évidemment 100%. Et ça comprend toutes les apparences, n'importe quoi. Leçon 73, je veux que la lumière soit. Je commence par dire, je ne sais pas, mais ça m'interroge. Là, j'ai vu aujourd'hui avec mes amis qu'il y a ce je veux, et pourtant il y a une volonté, et pourtant c'est déjà accompli. Et donc il y a quelque chose de didactique, quelque chose qui enseigne, qui est derrière. Et ça me permet finalement quoi? Toujours la même chose, de me réaligner sur le vrai, de me réaligner sur l'amour, de me réaligner sur mon vrai désir. Et effectivement, vous qui écoutez cet enregistrement, et nous qui sommes là ici, si on s'écoute un peu notre cœur d'enfant, notre cœur d'enfant de Dieu, on n'a qu'une envie, c'est d'aimer et d'être aimé, c'est évident. Il n'y a que ça qui a un sens. La difficulté, c'est qu'on veut être aimé parce qu'on a l'impression d'être pas aimé. Parce qu'on s'imagine séparé. Et c'est pour ça qu'il y a une très grande solitude apparente par laquelle nous passons tous tôt ou tard. Je dis bien une solitude apparente.
Elle n'est pas réelle, mais elle peut sembler très réelle. Parce qu'en fait, quelque part, nous sommes seuls face à cette décision. Qu'est-ce que je veux vraiment? Ce qu'a fait Jésus il y a 2000 ans, très bien. Ce que font les maîtres, les machins, très bien. Mais en attendant, moi Françoise, moi Pierre, moi Jean-Charles, moi je ne sais pas qui, là, chacun, je suis face à moi-même. Et là, je me sens seul. Et je suis concerné. Et c'est ce que nous dit Jésus dans le grand miracle en disant, ne me demandez pas, ni à moi, ni au Saint-Esprit, ne me demandez pas de vous enlever vos peurs. Parce qu'elles sont pas réelles. Je ne peux pas enlever ce qui n'est pas réel. Il n'y a que vous qui pouvez cesser de leur donner du pouvoir. C'est fort. Donc je suis seul face à ma décision, avec cette volonté, qu'est-ce que je veux? Et on revient à « je veux la vérité parce que c'est la vérité ».
Je rebondis là-dessus parce que moi j'ai tiré justement sur les peurs, et sur la leçon 348, je n'ai pas cause de colère ni de peur, car tu es tout autour de moi, et dans chaque besoin que je perçois, ta grâce me suffit. Et moi, j'avais pensé avoir bien fait le tour des peurs, et je dis bien dans la joie, d'ailleurs, c'est vrai. Sauf que l'autre jour, je me suis retrouvée face à la mort, et avec la peur de la mort, et ça, instinctivement, eh bien... C'est venu comme ça. Que faire dans ces moments-là? C'est venu sans même que j'ai eu le temps de prendre le recul nécessaire. Comment interpréter? La peur de la mort, réellement, quand on l'a en face de soi, c'est instinctif.
Tout à fait. Quand on choisit, je choisis l'amour et non pas la peur. Ça ne veut pas dire que j'ai pas peur. Je peux être terrifié dans une situation. D'ailleurs, on a beaucoup de messages actuellement là-dessus. En particulier le message, l'importance du oui, dont je parlais tout à l'heure. Eh bien, dans un message, il nous dit, vous dites oui à la vérité, et ne vous inquiétez pas, vous allez peut-être vivre des situations que vous auriez certainement souhaité autres. Avec justement des peurs de la mort, avec des peurs, tout d'un coup, vous avez une maladie, ou je ne sais pas, enfin des choses. Mais... voilà ce que nous sommes venus vous dire aujourd'hui. Ne craignez pas ce qui arrive, parce que c'est fait exprès par l'esprit. C'est fait exprès par l'esprit pour des nettoyages. Et donc, quand on dit je choisis la paix et non pas la peur, je choisis l'amour et non pas la peur, ça ne veut pas dire je suis exempt de peur, de ressenti de peur. Je peux être terrifié. Ça n'a rien à voir. Est-ce que tu comprends bien ça? C'est très important. Et donc, quand on a... Parce que je sais, ça revient tout le temps, ça. Souvent, les gens disent, écoutez, vous êtes bien gentil dans vos groupes, là, ça paraît très bien, mais en attendant, moi, chez moi, je suis dans l'angoisse, je coule complètement, etc. Et immédiatement, on dit, mais je te comprends. On n'a jamais dit le contraire. Je te tiens la main, je te comprends, ben, on fait silence. Enfin, bref, on est guidé dans l'instant à être présent et on n'a mis aucune situation. Aucune situation. Donc, il y a un grand paradoxe. Et c'est pour ça que le message d'Abraham X, là, nous remercie de ce courage. Parce que, quelque part, au milieu de situations difficiles, peur de la mort, par exemple, puisque merci pour cet exemple, on le connaît tous, hein, eh bien, ok, j'ai peur de la mort, d'accord. Je suis même terrifié, très bien. Je m'accueille avec ça. Et donc, ça, déjà, le fait de s'accueillir, déjà, ça calme. Ça calme souvent. Et puis, ça calme pas dans l'instant, ça calme pas. Et c'est vrai qu'il n'y a jamais de remède miracle, il n'y a pas de solution. L'invitation, c'est, j'aimais bien, moi j'ai beaucoup travaillé avec le message de Laurent Lévy, avec Régina Donnekers, le RAC, R-A-C, repos, acceptation, confiance. Repos, c'est rest en anglais, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une situation difficile, j'ai peur de la mort, bon, je m'arrête un peu, j'ai dit, oh là là, je suis terrifié, là, je panique, très bien. Quelque part, je me détends là. Je me repose un peu dedans. J'accepte la situation et j'ai confiance. J'ai toujours peur. C'est pas nier. C'est très important ça. Parce que très souvent on entend « Ah oui, mais moi j'y arrive pas. » Mais il n'y a rien, on n'arrive à rien. C'est une intention dans l'instant. Et on comprend mieux pourquoi le cours dit « Le seul ingrédient dont l'esprit a besoin, c'est votre bonne volonté. » C'est-à-dire votre intention dans l'instant. Qu'est-ce que vous voulez? Et cette leçon 73 que j'ai tirée, je veux que la lumière soit, quelle est mon intention? Ça veut dire, effectivement, il n'y a que la lumière, mais quelque part, je veux en faire l'expérience. Je veux en faire l'expérience. sinon ça reste du verbiage. Donc l'expérience de l'amour, l'expérience de la joie d'être ensemble, de communier, de participer ensemble, de créer ensemble, c'est la moindre des choses. Et ça passe effectivement par des étapes souvent qui peuvent nous paraître difficiles, surtout à l'époque actuelle où il y a beaucoup de nettoyage. Et on accueille l'enfant qui a peur. Vraiment.
Je vais rebondir sur la notion de volonté dont je parle. Moi, je le ressens comme la discipline de choisir la vérité, une forme de discipline. Plutôt qu'une forme de la discipline, pour moi, c'est plus accessible. Autrement, sur le lâcher-prise, j'ai tiré la. Leçon 359 qui est tout à fait parfaite sur le lâcher prise. La réponse de Dieu est quelque forme de peine. Toute douleur est guérie, toute misère remplacée par la joie, toutes les portes de prison sont ouvertes et tout péché est compris comme étant simplement une erreur. Je lâche prise. Ce soir, c'est vraiment.
D'intervenir à propos de la peur de la mort. Cet après-midi, je parlais au téléphone avec Sophie et nous parlions justement de la perspective de l'enfant intérieur qui a peur. Et il m'est venu cette comparaison. Il y a un parent en moi qui est dans la paix, dans la lumière. Et il y a un enfant avec lequel le parent se rend à un endroit où il y a beaucoup de monde, dans la fête foraine par exemple. Tout d'un coup, l'enfant s'égare et perd de vue son parent. Et il est terrifié. L'enfant est terrifié parce qu'il n'a plus ses repères, il cherche à revenir à la maison, mais il ne sait pas comment. Il sait que son parent est là, mais il ne sait pas où, et il commence à être terrifié, parce que pour lui, il se sent coupé de sa source. Et voilà, quand moi, en tant que conscience divine, je peux voir l'enfant intérieur comme un enfant égaré, qui cherche à revenir à la maison, avec un enfant qui est terrorisé par quoi que ce soit, mais la peur de la mort, c'est un exemple qui est assez parlant pour la plupart des personnes. Lorsque je peux voir que tout ce dont cet enfant a besoin pour être calmé, c'est de retrouver la maison de son père. C'est une vraie parabole pour moi, cette allusion-là. Il n'a pas besoin d'artifices, il n'a pas besoin de choses fabriquées, il a juste besoin que son parent lui dise, ne t'inquiète pas, je suis là. Je vais te ramener à la maison. Pour moi, ce parent, c'est notre esprit pur, celui qui n'a jamais quitté la source, qui n'est pas dans le rêve. Cet enfant intérieur terrorisé, c'est la partie de notre esprit qui se croit séparé et qui est perdu dans la foule et qui cherche à rentrer à la maison et qui pense que lorsque le corps va cesser de fonctionner, il va cesser d'exister. Donc c'est parce que je suis très identifié à cet enfant intérieur que j'ai si peur. C'est parce que je suis très identifié au corps que je me dis que je vais arrêter d'exister quand le corps va arrêter de fonctionner. Mais si je peux prendre la parole en moi au nom de ce parent paisible, Et rassurer cet enfant terrorisé et le ramener à la maison dans mon cœur, c'est-à-dire, si je suis en colère, c'est l'enfant qui croit qu'il est séparé, qui est en colère. Il n'y a pas besoin de s'occuper de la colère, il y a besoin de ramener l'enfant à la maison. Ramener l'enfant à la maison, c'est tout ce dont l'enfant a besoin, c'est tout. Donc, il n'y a qu'une seule action, c'est l'accueil, l'accueillir. Certaines personnes, dans les groupes et autres, veulent se débarrasser de la colère. Certaines personnes veulent en terminer avec la jalousie. Certaines personnes considèrent que c'est encombrant et qu'il y a besoin de le jeter pour ne garder que le, entre guillemets, positif, que les émotions positives. Alors que cet enfant, c'est une partie de mon énergie de vie qui s'est égarée, c'est-à-dire qui a fait fausse route. Elle est allée explorer l'obscurité et le parent est resté dans la lumière. Donc, cette énergie, elle est comme pervertie, elle est terrorisée parce qu'elle est dans le noir et qu'elle ne retrouve pas ses marques, ses repères. Et moi, je juste à ouvrir les bras et à dire « reviens à la maison ». C'est symboliquement ce que notre Saint-Esprit fait lorsqu'il nous guide à travers des actions justes. Et lorsque j'ai peur de mourir, et moi aussi, par moments, je suis terrorisé par ça, de moins en moins quand même, je peux voir que ce n'est pas moi en tant qu'esprit qui ai peur de la mort, c'est la partie de moi qui croit que je suis le corps. Quand je vois ça, je suis un peu plus identifié à la partie paisible, au Saint-Esprit, à la partie lumineuse, celle qui est éternelle. Qu'est-ce qui peut arriver à quelque chose d'éternel ? J'ai beau chercher, est-ce que quelque chose d'éternel peut arrêter de vivre ? Est-ce que quelque chose d'une puissance infinie, est-ce qu'il peut lui arriver un accident de la route ? Est-ce qu'il peut aller chez le dentiste parce qu'il a mal aux dents ? C'est ça le retour à la maison, c'est me rappeler que même si je ne le perçois pas, je suis, en tant que témoin qui observe l'enfant agité, égaré, je suis un être qui est dans une paix éternelle et qui peut aider l'enfant à retrouver le chemin de la maison, comme la parabole du Père prodigue dans la Bible et qui est rappelée dans un cours au miracle. Donc, regardez cette peur de la mort comme une croyance que je suis ce que je ne suis pas. Et lorsque je vois ça comme une croyance, je peux accueillir cette croyance et ramener cette énergie qui a fait fausse route dans la lumière, en l'aimant. Et le dernier message de Pamela Kribe, qui a canalisé Yeshua, et qui s'appelle « Donner le meilleur de soi », parle bien de ça. Je l'ai diffusé récemment sur Être Plus et dans le groupe de conscience. Parle bien de comment nous pouvons, comment notre tâche en tant qu'acteur de cette pièce de théâtre, du rêve, c'est pas de garder la lumière, amplifier la lumière et mettre de côté l'ombre. C'est une tâche absolument unique qui ne s'est jamais faite avant, c'est de réunir dans notre main l'ombre et la lumière. Et comment je réunis l'ombre et la lumière ? J'accueille les blessures de l'enfant intérieur et je les considère, je les inclus dans ma demeure. Je n'en fais pas quelque chose de séparé. Puisque je suis un, c'est impossible que cette prétendue ombre ne fasse pas partie de moi. Et lorsque je ramène à la maison, il n'y a plus les opposés, il n'y a plus les contrastes, il n'y a plus la perspective du bien et du mal. Ces perspectives-là ne peuvent exister que lorsque cet enfant est hors de la maison. Et l'unité, c'est juste le chemin que l'enfant fait pour revenir dans la maison de son père. Et le Saint-Esprit, que je suis, indique le chemin à cette... même si l'enfant est égaré au plus profond de la foule ou de l'obscurité, il y a toujours cette aide qui sera donnée si l'enfant dit « au secours ». Hein, « au secours », ça veut dire « aide-moi à rentrer à la maison ». Et nous, la manière de dire « au secours », c'est de dire « je ne connais pas le chemin pour rentrer, parce que je suis plongé dans le noir. S'il te plaît, esprit, qui sait où est la maison du Père, aide-moi. Hein. Aide-moi à trouver, et par moi-même, je ne sais pas rentrer. » Cette simple phrase, c'est déjà le retour. Parce que l'esprit attend que je demande de l'aide, puisque j'ai choisi l'expérience, et je choisis aussi le retour. Donc, tant que je n'ai pas choisi de rentrer en appelant au secours, alors je ne rentre pas. Je reste dans le rêve. Parce que, comme dit la phrase d'introduction que j'ai citée aujourd'hui, je n'ai pas fini encore mes leçons. J'ai besoin d'une autre salle de classe pour apprendre autre chose, et lorsque j'aurai tout appris, j'aurai fait les choix qui sont les choix d'amour, les choix de qui je suis, et donc par ce choix-là, je serai rentré, hein, puisque je vais exprimer seulement ce qui est, et arrêter de vivre des expériences douloureuses qui sont des chemins égarés, tortueux, qui sont des rêves. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire pour rentrer ? Faire le choix de tout ce qui est, simplement, et pas un autre. Mais c'est à moi de le décider. Et je décide quand je dis, Saint-Esprit, j'ai assez exploré d'expériences de qui je ne suis pas, j'ai rempli ma mission en ce qui concerne ça, c'est ce que je voulais, et grâce à Dieu, je l'ai fait d'une manière parfaite. Je l'ai fait d'une manière parfaite, et maintenant, je décide joyeusement de rentrer. Donc, la peur de la mort, c'est une des facettes de ce que tu as besoin d'explorer, en tant que celle qui se croit séparée, pour la nettoyer. J'explore que ce que je veux nettoyer. Si je ne l'explore pas, c'est que c'est déjà fait. Hein? Si je ne rentre pas dans cette salle de cours, c'est que c'est déjà nettoyé. Et donc, 2011, moi je sens, et c'est de plus en plus présent, qu'il y aura de multiples occasions de laisser entrer encore plus, de transmuter cette obscurité en lumière. Hein, c'est comme si nous étions dans une immense machine à laver en position essorage. Alors bien sûr, ça peut parfois transpirer, hein, l'essorage. Mais je l'ai choisi pour transmuter ça.
Sur justement la peur de la mort, je suis passé aussi dans la machine à laver, là, enfin l'essorage. Donc je vous ai déjà une fois un peu raconté. Donc, je devais me faire retirer une plaque dans le poignet et j'avais la trouille de l'anesthésie. Et à partir du moment où on m'a annoncé que le rendez-vous pour l'opération, j'ai vu partout où je me promenais, je voyais des magasins de pompiers partout. Je les avais jamais vus, hein. J'étais passé à côté, je n'avais jamais remarqué. Et donc ça, c'est les mécanismes de la peur. Et je m'en suis aperçu que j'en voyais partout. Donc je me suis dit, c'est mon ego là, qui cherche à reprendre la main. Je l'ai vécu comme ça. Qui veut me faire paniquer, me faire... Il y a des filtres là qui sont actifs, la peur veut s'installer en moi. Donc j'ai dit, chaque fois, je dis non, calme-toi, c'est ton ego qui te joue un tour. Je vais au rendez-vous avec l'anesthésiste. Premier panneau que j'arrive juste en entrant à la porte de l'hôpital, là, la chambre mortuaire. J'ai dit, ça commence bien. Je fais 50 mètres 100 mètres en gros dans l'hôpital, un corbillard qui passe. Ça continue. Et donc, j'ai fait le rendez-vous avec l'anesthésiste. Donc, vous avez bien vu que j'étais pas très détendu quand même. Mais j'étais pas en état de panique. Hein. J'ai le compte là. L'ego là, il y va. Et en fait, je me suis rendu compte après, entre le rendez-vous anesthésiste et l'opération, je me suis rendu compte que, en fait, dans tout ça, j'avais lutté contre l'éventualité que l'anesthésie se passe mal. J'avais refusé l'éventualité. Alors, elle est infime, elle est non nulle, mais une fois que j'ai accepté l'éventualité que ça se passe mal, que ça pouvait se passer mal, mais que j'allais tout faire pour que ça se passe bien, bien évidemment. Une fois que j'ai accepté l'idée que je pouvais mourir effectivement pendant l'opération, ben, tout s'est bien passé. Et j'y suis allé, mais j'étais pas paniqué du tout, impeccable. Donc c'était pour un petit truc, donc c'est donc là-dessus, sur les trucs plus graves, que je pense que la peur reviendra. Mais je suis déjà un peu passé dans les dans la machine à laver.
Oui, mais d'après ce qu'a dit Sylvain, si j'ai bien compris, en fait, d'accepter cette peur, comme étant une partie de moi-même, comme on l'a dit tout à l'heure, une partie de moi-même, finalement, ça évite d'en rajouter une deuxième, qui est la peur d'avoir peur. Finalement, c'était peut-être de l'orgueil de ne pas accepter cette peur.
Mais ça joue, hein. Là, il y a 2 mois, j'ai eu une crise de colique néphrétique. Je me suis retrouvé en pleine nuit avec des douleurs atroces. Mais j'ai regardé comment ça s'était passé dans ma tête, comment je m'étais comporté. J'ai jamais eu peur. J'ai suis resté lucide, ça vient de lui, qu'est-ce que ça peut être, machin, truc. Mais la peur n'était pas là. C'est marrant, pourtant ça fait mal, hein, je peux dire.
On parle de crise de panique qui se déclenche dans la nuit. Donc c'est quelque chose que l'on ne...
Ah, le déclencheur n'est pas connu. Oui.
À propos du nettoyage, quelque chose qui est de plus en plus présent pour moi, moi j'entends que tout ce qui remonte à la conscience, comme ces peurs-là, c'est des occasions de rechoisir. Et je ne peux pas traiter ce qui n'est pas conscient. Tout ce qui est enfoui dans les limbes, dans la cave non éclairée, je ne peux pas le traiter. Donc, ce sont des occasions bénies de me pencher sur des endroits qui ne sont pas en paix en moi. Et donc, c'est pour ça que je dis, je sens que ça s'accélère et que ça va encore s'accélérer plus, parce que les occasions de nettoyer vont se multiplier. Chaque fois que remonte une peur, c'est encore c'est une zone d'ombre qui réclame ma lumière.
C'est une ligne qui remonte.
Voilà.
En fait, moi, je n'arrivais pas à régler un problème d'agression grave qui avait eu lieu dans mon enfance à l'âge de 6 ans. C'est tout à fait ce que tu dis, c'est drôle que ça tombe juste dans mon histoire de purification qui m'est apparue. Et cette histoire terrible que j'ai vécue à l'âge de 6 ans, et c'était enfoui, et je n'arrivais pas à la régler par aucun moyen possible. Et, parce qu'il s'agissait effectivement d'une structure. Et je me suis mis de nouveau, donc il y a 3 semaines, dans la situation de revivre ça. J'ai été agressée comme il y a 3 semaines, et ça m'a permis, dans la nuit, d'effectivement faire ce nettoyage. Et ça a changé beaucoup de choses parce que j'ai récupéré cette énergie qui était. C'est de ça que tu parles, je crois.
Oui.
Moi, j'ai gagné en confiance après avoir traversé cette peur.
Voilà.
Je me suis senti beaucoup plus confiant. Beaucoup plus clair, plus confiant.
C'est comme si la lumière que je suis emploie une partie de cette énergie de lumière pour créer de l'ombre, pour créer le rêve de l'ombre, parce qu'en vérité, il n'y a pas d'ombre. Hein. Mais je mobilise en tant qu'être divin créateur une partie de ma lumière. Et je dis, tu seras ombre. Et lorsque je réintègre cette ombre, je la regarde, je l'éclaire. Et qu'est-ce qui se passe quand j'éclaire l'ombre? Où va l'obscurité? C'est une question, ça. Où elle va? Elle va nulle part, puisqu'elle n'existait pas. Le rêve n'existe pas. Quand je me réveille, il n'y a pas de rêve. Quand j'éclaire, l'obscurité se dissout. Ça veut dire que l'obscurité, c'est une absence. C'est pas quelque chose de réel. Le rêve est une absence de réalité. L'obscurité est une absence de lumière. Donc, je vais dans la cave, j'allume la lumière, et à ce moment-là, cette énergie qui était mobilisée à fabriquer de l'ombre revient
me revient en tant qu'énergie créatrice, disponible à nouveau. C'est pour ça que lorsque j'ai traité une peur importante, je me sens bien plus libre, parce que j'ai libéré une partie d'énergie qui était associée à ce but-là de simuler l'ombre ou la croyance.
Moi, pour toute peur, alors j'ai tiré cette leçon 358, nul appel à Dieu ne peut être inentendu ni laissé sans réponse. Mmh. Et justement, c'est peur dans le cadre de peur, d'expérience. Les peurs, pour moi, sont des choix d'expérience. Mmh. Enfin, les accueillir comme tels. Mmh. Dans l'instant, il y a. Et de ceci, je peux être sûr, sa réponse est celle que je veux réellement. C'est bien, justement, d'accepter la peur comme une expérience et de pouvoir la traverser, la lâcher, mais la lâcher après un accueil, après un travail.
La regarder en face aussi. Ouais.
Regarder en face et puis.
Mais ça, c'est en même temps le choix de voir la lumière, je pense que ça va avec.
Quand une peur remonte, c'est pour moi un appel à se réveiller que mon esprit me propose à nouveau, de rechoisir. J'ai peur de la mort, est-ce que tu veux continuer cette expérience ou est-ce que tu veux voir les choses autrement? Et lorsque je veux continuer cette expérience, c'est que j'ai besoin encore d'endosser ce manteau pour faire encore l'expérience de la croyance dans le corps, en tant que celui qui existe. Et lorsque je peux embrasser cette peur, dire je ne suis pas le corps, même si ce corps arrête de mourir, l'expérience de vie va continuer, alors cette expérience est devenue lumineuse. J'ai rechoisi l'amour à l'endroit où je choisissais la séparation. Et cette partie-là est bouclée et ne me sera plus proposée. Et puis après, il y aura les autres parties. Lorsque j'aurai tout réintégré dans la maison, dans la lumière, en refaisant les choix, alors il n'y aura plus de rêve, hein, puisque tout sera lumineux, tout sera réel. Moi, je peux avoir beaucoup de gratitude lorsque je sens la négativité qui remonte. Parce que je me dis, chouette, l'esprit m'envoie le message de quelque chose à guérir.
Une leçon à prendre.
Ouais, qui n'est pas terminée. Et c'est que des appels à aller de mieux en mieux. Hein. C'est très encourageant. Ah tiens, oui, il reste encore un truc là avec ça. Hein, que j'ai pas encore bouclé. La salle de classe est encore ouverte. Mais quand je peux le voir comme ça, je ne me positionne pas en tant que victime à qui ça arrive, cette expérience douloureuse. Je me positionne en tant qu'esprit qui dit, tiens, vie, là, cette partie égarée, là, tu as envie de la voir maintenant ou tu remets ça à dans 5 ans ou plus tard? Tu es libre, hein, fais ce que tu veux. Et moi, je dis, ah, la perche. C'est vrai, merci. Et quand je dis merci, c'est déjà le retour à la maison.
Moi, j'en suis pas encore à dire merci, mais j'observe. Effectivement, quand il y a un être qui arrive comme ça, je dis tiens, il y a un truc à apprendre. Mais j'observe. J'en suis pas encore à dire merci. Ça va pas tarder.
Moi, j'ai une expérience. Moi, je dis souvent, les mots témoignages des uns et des autres permet à la personne qui veut éclairer quelque chose de trouver la sienne, parce que chacun a sa façon de voir les choses. Moi, j'ai perdu un petit frère noyé, et de très longtemps, je ne pouvais pas nager. J'avais la peur de l'eau. Aujourd'hui, je rentre dans l'eau, j'essaie de nager, parce que peut-être pour moi, j'ai compris que la mort n'existe pas. Mais ce ne sera peut-être pas la même expérience pour toi. Pour moi, aujourd'hui, je choisis que la mort n'existe pas. Et donc, cette peur de mourir, m'a quitté. Et sincèrement, aujourd'hui, j'ai pas peur, j'ai même peur de la vie, de ne pas. J'ai justement dit sa vie ici dans nos réunions. J'ai pas envie de mourir parce que je sais que je n'ai pas réalisé ma mission. Mais c'est pas la peur de quitter mon corps qui me gêne. C'est pas vraiment la peur de quitter le corps parce que je pense avoir compris que c'est l'immatériel qui nous permet de vivre, qui nous accompagne sur cette terre, mais qui a sa valeur haute, mais c'est pas notre réalité. On a autre chose que le corps.
Mais justement, quand on a failli t'enlever ta vie à la très jeune, et que on ressent tout à fait ça, on se dit mais je n'aurais pas le temps de faire tout ce que ce que j'avais prévu de faire, et voilà, j'ai dû mourir avant de faire tout ce que je souhaitais faire. Ça, c'est...
Oui, mais c'est petit à petit qu'on perd cette appréhension, cette crainte. Donc ça vient pas d'un seul coup.
Non, et même encore maintenant, je pourrais dire, je sais bien que je vais quitter cette terre demain, que le corps n'est rien, mais j'ai encore envie de vivre des choses ici.
Mais,
ça...
mais une vie ne suffit pas à l'ego pour faire toutes les expériences que nous souhaitons faire. C'est pour ça qu'une fois que le corps est usé, mais l'ego en fabrique un autre pour continuer. Il y en a des centaines ou des milliers. Jusqu'à ce que j'ai fait le tour de toutes les perspectives et j'ai endossé tous les manteaux que j'ai voulu endosser. Et c'est lorsque j'ai passé tout ça en revue que je peux dire ma tâche est accomplie. La tâche n'était pas forcément accomplie lorsque mon corps est trop usé pour servir. D'où l'idée, la croyance en la réincarnation.
Mais il y a les choses que l'on sait intellectuellement. Je sais ce que tu me dis, je le sais. Et puis, le reste. Les choses que l'on a complètement oubliées, c'est différent. Je le sais.
Que d'autres n'acceptent pas, mais comme je viens de dire depuis tout à l'heure, qu'il y a ces questions de vocabulaire, de secteur, religion, confession, comme on peut l'appeler, d'autres appellent évolution, etc., il n'y a pas de réincarnation. Mais quand on comprend la chose, le fond elle-même. Alors moi, pareil, je sais que chez nous, en Afrique, quand on perd un membre, on pleure vraiment à chaudes larmes. Des fois, on paye même des pleureuses pour pleurer parce qu'à la fin, on dit que ça a été bien passé, on a bien pleuré. Et je t'assure, et moi j'avais un problème, je ne savais pas pleurer. Et intellectuellement, comme tu dis, je ne pouvais pas affirmer que la mort n'existe pas. Mais j'avais une tante qui me disait, mais toi tu es comme l'homme, tu ne pleures jamais. C'est-à-dire que je peux sentir intérieurement une sensation. Mais vous pleurez vraiment.
Mais ça pleure court. Moi, j'ai vécu 5 ans en Afrique. Ça pleure court.
Ah oui.
Ça pleure beaucoup, mais très peu.
Ça dépend des. Moi, ça dépend des régions. Même chez moi, je suis du Cameroun. D'un côté au nord, au sud, c'est différent. Hein, donc, ça dépend des. Et ça pleure vraiment des semaines jusqu'à ce qu'on enterre la personne. Oui, au nord du Cameroun, c'est ça. Et moi, je ne savais pas. Pour moi, je ne pouvais pas expliquer que la mort n'existe pas à l'époque. Donc, et quand j'ai redit ça, quelqu'un m'a dit peut-être que mon âme le savait. Enfin, moi, je ne savais pas, mais bon, mais je ne savais pas pleurer. Pour moi, j'avais de la peine à ne pas pouvoir pleurer. Mais je regrettais vraiment d'avoir perdu quelqu'un. Mais lui, pleurer comme tout le monde, je ne savais pas, mais bon. C'est pour dire qu'il y a certaines choses qui se passent dans la vie, on ne sait pas pourquoi, et à fur et à mesure, en étudiant, comme nous faisons, on arrive à dire, mais peut-être que c'est parce qu'on ne mettait pas la valeur à le fait de transiter ou de sortir de son corps, ou de ramener le corps, mais je ne peux pas expliquer, mais bon. Cependant, je peux pleurer intérieurement d'une situation qui me gêne. Mais pas que quelqu'un est mort, on organise, je pleurais, moi je ne savais pas quoi faire. Et pour moi, c'était une honte.
Ça m'a fait drôle en Afrique aussi de voir
c'était
ça.
C'était une honte de ne pas être capable de faire ça.
Moi, je sens un fort parallèle entre l'élévation de mes vibrations qui vont de l'état de terreur, de peur, d'ombre à un état élevé d'amour qui pose de moins en moins de conditions jusqu'à atteindre la fréquence la plus élevée possible qui est Dieu, hein, qui est l'amour inconditionnel. Je sens que c'est comme un baromètre, ces vibrations, de ma peur de la mort. C'est-à-dire que plus j'ai des vibrations élevées qui manifestent, qui choisissent l'amour de plus en plus dans ma vie, et plus cette peur de la mort devient l'enfant que je peux regarder depuis le regard du parent. C'est plus moi l'enfant. C'est une partie de moi qui est encore égarée, mais je la regarde depuis un endroit aimant. Et donc, j'étais dans des vibrations plutôt basses, plutôt de je veux, je contrôle, je dirige, là, la mort, il ne fallait même pas en parler. Parce que, et d'ailleurs dans notre société, le milieu médical, c'est tabou. Personne n'en parle parce que c'est la peur la plus fondamentale. Les médecins, j'entends dire que les médecins choisissent ce métier parce qu'ils sont eux-mêmes terrorisés par la mort. Ils sont dans cette situation-là, confrontés avec la mort, parce que c'est l'expérience la plus utile pour eux. Et j'ai jamais entendu un médecin dire « Préparez-vous à quitter, à ce que cette personne décède. Préparez-vous, ça peut arriver peut-être maintenant, hein, avec l'élévation des vibrations, mais préparez-vous au décès de cette personne. » C'est soigneusement occulté jusqu'à la fin, parce que c'est terrorisant, hein, cette notion-là. Mais plus j'ai un regard qui choisit l'amour, et plus la fin du fonctionnement du corps, je peux l'observer avec un peu de distance et arrêter de la prendre vraiment au sérieux. Et je vois que ma relation à la mort, à la mienne et à celle de mes proches, a beaucoup évolué avec ma propre évolution. Mon père est parti il y a un an, pile, pratiquement, le 31 décembre, et j'ai vu que je crois ne pas avoir pleuré, je sentais beaucoup d'amour, je sentais que je l'accompagnais, je sentais que c'était un moment où j'avais besoin d'être présent et que c'était une communion, je sentais qu'il n'arrêtait pas qu'il ne sortait pas de la vie pour autant. Donc ça a beaucoup à voir avec ce que je crois, hein. Si j'avais tellement peur de la mort, je serais devant mon père effondré par le sentiment que il va me manquer, hein, c'est-à-dire qu'il n'est plus en vie, il est absent, il est séparé de moi par le corps physique, alors que je peux aussi sentir qu'il quitte son corps, mais il ne me quitte pas dans la relation d'amour. Donc c'est intéressant de voir ça comme un baromètre. Pour moi, ça l'est, un baromètre, en fonction de la fréquence de mes vibrations.
Comme on dit certains, quand on pleure après un décès, c'est pas pour la personne qui pleure, c'est pour soi.
C'est normal qu'il y ait de la tristesse, hein, aussi, c'est humain. C'est,
oui, c'est bien sûr.
Il faut qu'elle s'exprime, il ne faut pas la refouler, la tristesse. Si on est triste, on est triste. Il faut accepter sa tristesse, la vivre. C'est le meilleur moyen de la traverser.
Il n'y a pas de jugement à ça, si tu veux être.
Si on refuse cette tristesse, si on la refoule, on rentre dans un circuit infernal.
Non, là, je pense que là, on ne parle pas de refoulement.
on parle de dépassement, si on peut dépasser, surtout par refoulé. Refoulé, il y a encore un moment, ça remonte à la surface. Donc il faut comprendre pourquoi, l'intégrer,
Refoulement,
ça remonte. Il faut l'accepter, comme disait Sylvain. C'est la situation maintenant que ça vient, l'histoire de mort, ça vient, tu l'acceptes, à un moment donné, ça partira. C'est comme ça. Enfin, moi, je pense. Il n'est pas question de refouler forcément. Il faut l'accepter, cette situation qui arrive. C'est peut-être un passage obligé pour pouvoir, bientôt, peut-être en 2012, peut-être même, peut-être demain, on ne sait jamais, que ça ne fasse plus la même chose. Puisque quand on partage dans un groupe, c'est comme ça, ça... Ça dégage,
effectivement. Et à propos de l'acceptation, tout à l'heure, tu mentionnais, tu disais, mais peut-être que finalement, vis-à-vis de ma peur, j'avais de l'orgueil. Et qu'est-ce que c'est que l'orgueil, finalement? C'est une prétention à quelque chose qui n'est pas réel. C'est-à-dire, finalement, c'est la prétention que le petit jeu séparé, le petit moi, la petite personnalité, aurait un pouvoir quelconque. Quand on regarde, si on regarde vraiment l'observateur, en vrai scientifique, le fonctionnement du monde à l'extérieur, comment fonctionnent 6 milliards, 800 millions de personnes, comment fonctionnent les saisons, le monde minéral, végétal, animal, quand on voit aussi cette planète, comment elle est dans son système solaire, et puis ce système qui est à l'intérieur de... une constellation, une galaxie, et qu'on étend encore davantage. Si on regarde vraiment et qu'on pense qu'on a un petit contrôle quelque part, mais c'est absolument dérisoire. Alors bien sûr, on va dire, mais j'ai un contrôle parce que finalement, au lieu de manger 4 secs par jour et de boire 2 bouteilles de whisky, finalement, je me mets bio et je me mets végétarien. Résultat, je me sens mieux, bien sûr. C'est pas nier ça. Donc, les effets d'une certaine action ne sont pas niés. Simplement, la question, c'est qui a choisi d'arrêter de boire ces 2 litres de scotch par jour? Qui a choisi de... etc. Qui a choisi de naître à tel endroit, tel, etc. Qui a choisi de faire des études de piano ou pas des études de piano, etc. Et quand on est vraiment honnête, on prend son temps, et ça peut prendre du temps de bien observer tout ça, on s'aperçoit qu'on n'a aucun contrôle sur rien et qu'on ne fait jamais rien personnellement. Et on avait reçu avec Caroline il y a quelques années un message en disant, là on vous passe un message plus subtil, c'est les situations ne sont jamais créées par les personnages, elles sont créées par l'esprit. C'est ce que dit le cours dans la fameuse leçon 135, qu'on n'arrête pas de citer, que j'adore cette phrase. Que ne pourriez-vous accepter si seulement vous saviez que tout élément passé, que tout événement, pardon, passé, présent et futur est planifié avec douceur par l'un dont le seul but est votre bien. Que ne pourriez-vous accepter si vous saviez que tout événement, vous vous rendez compte, tout. Et c'est ça l'humilité, la vraie humilité, j'arrête de prétendre. Et l'arrogance, c'est de prétendre savoir quelque chose. L'arrogance, c'est pas mal, c'est un phénomène de l'ego. L'ego est naturellement arrogant, il prétend, il essaie d'être quelqu'un, il essaie d'être quelque chose, alors qu'il n'est rien. Il est imaginé, il n'existe pas. C'est tout. Donc c'est ça, la vanité, l'arrogance, l'orgueil dont tu parlais, etc. Ce sont des concepts de l'ego, tout ça. C'est pas réel, c'est pas qui nous sommes. Et c'est intéressant d'observer ça. Et donc de passer par vraiment par, ok, comme dit le cours en miracle, je prends, pour avoir la première place, je prends la seconde. Qu'est-ce que ça veut dire, je prends la seconde? Ça veut dire, j'aime bien cette leçon aussi, je me recule, I step back, je me recule, et je le laisse diriger la route. I let him lead the way. Je le laisse diriger la route. Donc je dis, allez, ok, prends les rênes de ma vie. Comme Jésus disait il y a 2000 ans en disant, ce n'est pas moi qui agis, c'est le Père en moi. De moi-même, je ne peux rien faire. Voilà, il disait ça franchement, mais ça n'a pas été compris. On en a fait une idole, un être extraordinaire, le Fils unique, tout ce qu'on veut, enfin bref. Mais il disait, de moi-même, je ne fais rien,
si je porte témoignage pour moi-même en tant que personnage séparé, je porte témoignage d'un mensonge, et nous sommes un, et le Père et moi sommes un, comme vous, comme le Père, et comme nous sommes un. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment, je prends la deuxième place, je laisse aller l'ego. Comme tout à l'heure, j'aime bien Avi qui raconte, disant, bon, allez l'ego, ça va coucher là, c'est bien. Coucher là, c'est bon. Et évidemment, il y a de l'humour avec ça. Ça veut dire, je te comprends, je comprends l'ego, mais je choisis autre chose. Donc, ok, j'ai encore des pensées d'ego, d'accord. De toute façon, c'est inhérent à l'incarnation humaine. L'ego, il est toujours là. L'ego est toujours là. Parce qu'on baigne dedans. Et tous nos frères et sœurs sont autour de nous. Il y a un ego énorme, gigantesque. On peut dire souvent, il n'y a qu'un seul ego, on est dedans. Seulement, on n'y croit pas. Et je peux vous faire une confidence, puisqu'on parle du courant miracle. C'est que le Bill Thetford, qui avait pris le courant miracle avec Ellen Schuckman entre 65 et 72, il est décédé le 4 juillet 88. J'étais aux États-Unis à l'époque, enfin j'étais en France, puis j'ai été aux États-Unis, et puis il est venu par canalisation. Il est venu par canalisation au bout de 2 mois, et il est venu nous apporter, on était deux, avec une médium qui canalisait, et moi, à côté de la fondation aux États-Unis, dans le Marin County, au nord de San Francisco. Et il a donné des messages extrêmement simples. Mais je me souviendrai toujours dans ce message, il y avait quelque chose par rapport à l'ego. En disant, l'ego est toujours là, l'ego sera toujours là. Il sera toujours là. Mais c'est comme un vieil ami dont on a percé tous les secrets. C'est comme un vieil ami dont on a percé tous les secrets. Ça va, ok, c'est bon. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, on est en mission ici. Et donc, on connaît très bien l'ego. Et quand on a un frère, une sœur, quelqu'un qui lui dit, écoutez, moi, j'y arrive pas, moi, j'en ai marre, moi, ceci, cela, mais attends, mais je te comprends. Je connais. Je connais très bien. J'ai choisi d'épouser toutes ces expériences. Et d'ailleurs, Jésus parle de lui-même de la même chose, qu'il a choisi toutes les expériences de haine, de jalousie, de luxure, de tout ce qu'on veut, de meurtre. Il va carrément en disant, attendez, si j'avais pas choisi tout ça, tout ce que je peux vous dire, vous pouvez le mettre à la poubelle. Voilà ce qu'il dit d'ailleurs par Jaïm, et j'ai découvert ça récemment, ça m'a beaucoup touché. On devient un peu sérieux là, on devient un peu concret, pratique. Et donc, j'accueille l'ego, ça fait partie de l'expérience, je comprends l'ego de mes frères et sœurs, et qu'est-ce que je fais? Mais j'aime, c'est-à-dire j'embrasse, j'accueille. Et encore une fois, à chaque fois on revient à cet amour inconditionnel. Cet accueil inconditionnel. Quand? Mais dans l'instant présent. On parlait des cartes tollées, mais c'est ça, dans l'instant présent, c'est toujours l'instant présent. Et donc, savoir ce que je vais dire, ce que je vais faire, très bien, je vais voir, je vais observer, j'ai confiance. Mais dans l'instant présent, c'est une question d'état d'esprit. Et cet état d'esprit, mais qu'est-ce que je choisis? Je choisis l'amour. Et l'amour n'a pas l'opposé. Et l'amour, c'est ce qui nous sommes tous. Donc tout le monde est amour. Alors, je choisis cela, je dirais avec des mots, bon, qui sont humains, envers et contre tout, etc. Ça veut dire, quelles que soient les apparences. Mais ça, et effectivement, dans toute situation, je vais choisir la vérité. Mais je peux me sentir très très mal. Et lundi dernier, par exemple, j'étais pas ici. J'étais très mal physiquement. Et j'avais comme un dégoût de la vie, j'avais été ras-le-bol, j'étais épuisé, avec une très forte bronchite, des toux qui m'empêchaient de dormir, enfin bref. Et quelque part, j'observais tout ça. Et j'observais mon dégoût. Et en même temps, j'avais comme par moments des élans de douceur en disant, qu'est-ce qui est vrai? Il n'y a que Dieu. Et je sais que c'est quelque chose qui est utile. Mais, cela dit, j'en ai ras-le-bol. Cela dit, je me sens très mal. C'est pas nier, ça. C'est pas nier. Et là, dans l'instant présent, ben voilà, c'est là, c'est ça. Et puis voilà, et puis après ça, voilà, et puis tout d'un coup, on partage. Mais on partage en disant, mais attendez les chéris, là, on se tient tous la main. Et quand quelqu'un est désespéré, eh bien on comprend. Quand quelqu'un en aura le bol, quand on dit « moi je suis pas d'accord avec ce que tu dis », etc. On comprend très bien. C'est ça l'amour. Et c'est ce que nous partageons ouvertement de plus en plus, les uns les autres, en particulier ce soir.
Donc l'accueil, en fait, total, c'est un pardon, c'est ça? Donc pardon, dont le cours parle, où en fait, il n'y a plus besoin de pardonner, finalement.
Le pardon, c'est une illusion. C'est ce que le cours le dit, c'est la dernière illusion qui aide à sortir de l'illusion. Et qu'est-ce que ça veut dire, illusion? Ça veut dire qu'effectivement, il n'y a pas de pardon.
Parce que quand on pardonne, c'est qu'on a quelque chose qu'on n'a pas accueilli.
Oui, bien sûr, il n'y a pas de pardon, c'est vrai.
À partir du moment où on accueille tout, bien, mal, à partir du moment où on le voit avec la vision du Christ que je n'ai pas, c'est le pardon.
Le pardon, c'est le changement de vision.
C'est d'arriver à voir ça.
Au lieu de voir l'instant. Faux, je vois vrai.
Mais ça peut faire toujours aussi mal. Mais je ne suis pas d'accord avec quelque chose qui me touche. Peu importe, on m'a bousculé, on m'a insulté. J'accueille. Mais ça ne veut pas dire que ça ne me touche pas.
C'est une agression.
Non, mais je crois que...
Tout à fait. Oui.
Donc, mais si... Donc, alors, si j'accueille...
Ce qui est juste, c'est ce que tu vis.
Oui.
Mais j'ai eu une expérience, quand je suis arrivée en France, j'étais dans la région lyonnaise. Et moi, je dis, c'est le bouddhisme qui m'a changé un peu, parce que j'ai fait tellement de choses dans ma recherche. J'avais un esprit de révolutionnaire. Aujourd'hui, ça ne marcherait plus chez moi, parce que j'ai changé d'état d'esprit. J'ai changé de façon de croire. Je ne supportais pas les choses. Aller par exemple à la préfecture pour faire la queue de carte de séjour, je me disais, mais alors merde, ces gens, ils viennent chez nous, ils occupent des postes qu'ils ne méritent pas, les médecins, ils n'ont pas de diplôme, etc. Moi, j'avais cet esprit-là. J'habitais la région lyonnaise à Villeurbanne. Je suis allée là un jour, un matin, un samedi matin, à la poste pour retirer mes tissus avec mon carnet avec ma pour retirer l'argent. Il y avait une personne. Qui voulait, on fait la queue, elle veut passer en avant. Alors je dis, madame, vous voyez tout le monde qui fait la queue, vous voulez passer en avant, vous croyez, vous êtes qui? Avec un air, hein. Elle m'a dit, vous êtes quoi? Vous pensez que vous êtes chez vous? J'ai dit, je suis chez moi. Non seulement je ne suis pas chez moi, maintenant vous me mettez derrière. Tant que je ne suis pas servie, vous ne passez pas. Et le guichet voulait dire aussi, voir que j'étais. J'ai dit, monsieur, tant que je ne suis pas servi, attends, j'appelle le directeur ici. Personne ne bouge. Personne n'a bougé. Et le directeur est venu. Et j'étais contente de moi. Et après les jours, j'étais devenue une amie intime à la personne. C'était bien passé. Mais aujourd'hui, je ne peux plus faire comme ça. Si je fais comme ça ne marchera pas. Parce que dans mon état d'esprit, ça ne fonctionne plus comme ça. C'est-à-dire que tout fonctionne à partir de ce que tu acceptes à l'intérieur de toi. Aujourd'hui, j'agis avec... Alors que dans le temps, si je n'avais pas fait ça, je me serais culpabilisée pendant des mois parce que je n'ai pas pu me défendre. Aujourd'hui, j'agirai tout en rendant grâce à Dieu, comme dit le Christ. Et si on te tape, tu tends l'autre joue. Mais ce n'est pas en faisant ça. Mais c'est-à-dire que, comme venait de dire Sylvain, tu laisses passer. Mais pour moi, c'est une grandeur aujourd'hui de laisser passer. Alors qu'à l'époque, ce n'était pas ça. Si je laissais passer, ça ne marchait pas. Alors qu'aujourd'hui, si je fais comme j'avais fait avant, ça ne marchait pas non plus. Parce qu'à l'intérieur de moi, ça ne fonctionne plus comme ça. C'est-à-dire qu'on a chacun son évolution intérieure. Parce que tout se passe pour moi, tout se passe à l'intérieur. Plus tu acceptes, comme on dit, Sylvain, on fait le choix, puisque tu choisis vraiment avec, c'est-à-dire c'est pas le refoulement, comme dit, mais c'est un choix que tu fais avec ta compréhension, avec le temps. C'est ça qui marche. Moi, ce qui marche aujourd'hui, je suis sûre que je le faisais avec mon état que j'avais de révolutionnaire, de vengeuse. Si je faisais 10, 15 ans avant, ça ne marcherait pas. Mais aujourd'hui, si je fais ce que je faisais avant, ça ne marchera pas non plus. Parce que mon état n'est plus comme ça. À l'intérieur, je ne fonctionne plus comme ça. Donc, il n'y a pas de comparaison à faire par rapport au nôtre. Donc, chacun de nous, c'est à partir de ce que nous acceptons. Comme a dit Sylvain, nous acceptons là où nous sommes, au fur et à mesure, la compréhension vient, et puis les choses
comme en même temps avec d'autres mots et d'autres langages, c'est, ou c'est Dieu, ou c'est l'esprit qui fait les choses, et puis voilà. Et avec le travail comme ce qu'on fait ici, ça, les choses, ça s'intègre tout seul.
Voilà, je vais clore le groupe officiellement, nous pourrons continuer librement après, afin de libérer ceux qui doivent rentrer, s'il y a besoin. Je vous dis dans la joie d'une prochaine rencontre lundi prochain.